Merci, Fresneville. Il faut que je te serre la main. Que le Seigneur te bénisse, Fresneville. Eh bien, c'est vraiment un plaisir d'être de retour, même s'il fait chaud. Quelqu'un a dit dans l'Ancien Testament, et c'est ce que je crois, « Je suis dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Là, c'est réellement une soirée chaude. Et vous, les visiteurs qui êtes parmi nous, vous pouvez voir pourquoi il est difficile de vivre ici, en Indiana, dans ce marécage. Et je vous assure qu'il ne fait que 34 degrés. 34 degrés. Alors, vous voyez, quand on atteint dans les 50 degrés, comme en Louisiane et en Arizona, on se rend compte à ce moment-là de ce que c'est, quand on y est vraiment. Si c'était ici, on mourrait, voilà tout. Mais c'est un plaisir d'être ici, pour avoir ce moment d'adoration. Après être rentré chez moi ce matin, je me sentais vraiment, vraiment bien. Du fait que, je crois que ce matin, beaucoup de gens ont été guéris, qui ne s'en sont peut-être pas encore rendus compte. Mais ils vont se rétablir. En effet, la parole du Seigneur a été précieuse à nos cœurs ce matin. J'étais, au moment où j'allais repartir, on aurait dit que les murs respiraient, qu'ils se gonflaient en quelque sorte sous l'action du Saint-Esprit, tant il était présent ici. Et j'étais si heureux de cela. Il y a quelques instants, j'écoutais prier mon ami, Frère Smith, pasteur de l'Église de Dieu d'Anderson. Frère Smith, un petit tract. Je ne pense pas qu'on l'ait distribué ici au tabernacle. Si certains d'entre vous n'ont pas eu ce petit tract, il faut le lire. Ce petit tract est saisissant. Il présente la vérité, absolument conforme à l'Écriture. J'en ai apporté beaucoup à Chicago et à différents endroits afin de les distribuer, parce que c'est un tract merveilleux qui présente réellement la vérité. Et je sais qu'il est écrit par un cœur loyal qui aime Dieu. Ce n'est pas un motif égoïste qui a poussé Frère Smith. C'est entièrement d'inspiration chrétienne. Alors nous sommes heureux ce soir d'être associés à des gens de ce calibre. Il me semble voir mon bon ami, Frère Borders, ici, de la Californie. Il a fait un travail formidable pour moi dernièrement, pour le Seigneur, là-bas aux réunions de San José, que nous avons commencé ensemble. J'espère que vous ferez un travail aussi bon lors de celle que nous aurons prochainement, Frère Borders. J'aime bien Frère Borders, parce que je trouve en lui un esprit humble et doux. Et je pense que c'est d'un grand prix. Je pense qu'un homme qui a ce genre d'esprit devrait être très heureux. Il y a encore tellement de personnes ici que je n'arrive pas à citer tous leurs noms. Je vois Frère Collins, au fond, notre frère, et aussi d'autres ministres, et notre bon ami, Frère Southman, sa famille, du nord du Saskatchewan. Et je sais que Frère Evans est ici. Je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai vu sa famille, et de la Géorgie, et il y a là Frère Palmer, et de la Géorgie, et Frère West, de l'Alabama, ou de la Géorgie, je crois. Vous êtes d'où, Frère West? Je sais. Ah, Huntsville. Et puis, oh, nous sommes vraiment heureux de vous voir tous ici. Et maintenant, Frère Lyle, au fond, Wood, du nord de l'Indiana, et ses bien-aimés. Et je pense que Frère Charlie est ici, mon vieux compagnon de chasse du Kentucky. Il est au second rang des chasseurs d'écureuils du Kentucky. Au second rang des chasseurs d'écureuils. Il va me faire payer ça, très bien. Avec sa femme et sa famille, et tous, je vous salue en Christ. Ce jeune frère, ici, son nom m'échappe, ici, et d'autres. Mais vous savez tous que j'apprécie vraiment que vous soyez venus adorer avec nous au tabernacle ce soir. Bon, et ce soir est un soir inhabituel au tabernacle, parce que c'est un soir de questions et réponses. En général, nous avons ça une fois par an, ou par 2 ans. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est pour garder à l'esprit ce qui occupe l'esprit des gens, pour savoir quelles questions justes ils se posent. Je demande à chacun de mettre une question, puis j'y réponds sur l'estrade. Maintenant, ici, je n'ai pas reçu, je pensais que ce serait très intense, mais je n'ai reçu que très peu de questions. Alors, ça ne nous prendra pas beaucoup de temps pour y répondre. Je pensais en recevoir une corbeille pleine, mais il n'y en a que très peu. Elles sont très simples. Par contre, quelques-unes traitent de points de doctrine. Et en ce qui concerne la doctrine, je devrais répondre à la question des gens sans savoir qui c'est, parce que beaucoup n'ont pas mis leur nom sur les questions. Et donc, je devrais répondre selon la doctrine que nous soutenons au tabernacle. Et en faisant ça, alors si jamais ça crée un petit malentendu chez quelques-uns parmi nos frères ou sœurs de passage, pour rien au monde, nous ne voudrions faire ça. Nous ne croyons pas qu'il soit de mise de se chamailler sur des points de détail de l'Écriture. Nous croyons que Christ est mort pour nous sauver tous et que nous sommes tous sauvés par son sang. Mais en tant qu'Église et en tant que groupe de gens, qu'assemblée, il nous faut avoir une doctrine que nous soutenons pour pouvoir être une Église. Et cette doctrine que nous soutenons est, à notre connaissance, conforme à la parole de Dieu, elle est la vérité de Dieu. Or, vous avez parfaitement le droit de voir les choses autrement, si vous le désirez. Et donc, quelqu'un qui a posé des questions ici, deux ou trois d'entre elles sont assez difficiles. Et maintenant, je vais y répondre vraiment de mon mieux. Maintenant, voici comment j'essaie de traiter une question. Une question, si une personne peut, au moyen d'un seul passage de l'Écriture, faire dire à celle-ci pratiquement tout ce qu'elle veut qu'il y soit dit. Pourtant, l'Écriture, chaque passage de l'Écriture est la vérité. Elle est si parfaite que le Dieu infini qui a prononcé l'Écriture, elle est si parfaite qu'elle n'a jamais de fin. Ainsi donc, de la Genèse à l'Apocalypse, d'un bout à l'autre, elle sera toujours pareille. Elle ne variera jamais. Alors, si la Bible est la parole de Dieu inspirée, elle ne se contredira nulle part. Elle se tiendra tout au long de l'Écriture. Or, souvent, comme ce matin, j'ai été quelque peu tranchant dans ma prédication sur Samson et Delilah, et sur la mondanité dans l'Église. Mais je ne veux pas être tranchant. Par contre, je veux être honnête, aussi honnête que mes convictions. Maintenant, dans les Écritures, puisqu'elles sont la parole infaillible de Dieu, je crois qu'il n'y a qu'une chose qui puisse correctement interpréter l'Écriture, c'est le Saint-Esprit. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui a écrit les Écritures et qui a dit qu'elles ne peuvent être un objet d'interprétation particulière. Par conséquent, si elle se tient tout au long des Écritures, alors il faut nécessairement que ce soit le même Saint-Esprit tout au long qui l'interprète. Mais maintenant, beaucoup de gens ont, selon leurs églises et leurs croyances, des différences, des petites choses auxquelles ils s'accrochent qui ne sont peut-être pas tout à fait exactes. Dans ce cas, faites simplement comme moi. Quand je mange de la tarte aux cerises, je ne mange jamais le noyau. Quand mes dents s'arrêtent sur un noyau, je jette simplement le noyau et je continue à manger la tarte. Alors, faites comme ça. Je vois que notre sœur Wooten est là, debout avec son bébé. Si la chose, sœur, est que vous n'avez pas de siège, je me demande si l'un de nos frères ne pourrait pas sortir un siège et le mettre là, près du ventilateur, pour que notre sœur puisse s'asseoir dans un endroit frais. Nous serions heureux de faire ça, j'en suis sûr, n'importe lequel de ses frères. Le ventilateur là-bas au fond, sœur, là, qui souffle dans cette direction-ci. Et voilà un siège. Si vous voulez l'utiliser, allez-y. Maintenant, ceux d'entre vous, les frères, qui désirent enlever leur veston, allez-y, mettez-vous à l'aise, faites-vous plaisir. Maintenant, je demanderai au corps des croyants de bien vouloir prier pour moi. Cette semaine, je dois aller en Californie, me rendre là-bas pour un soir de réunion, rien qu'un soir, pour prêcher au Congrès international des hommes d'affaires chrétiens. Mais ils ont fait de la publicité pour ça, et on attend plusieurs milliers de personnes. Je ne voudrais pas les décevoir. Je leur ai dit que je viendrai à moins que je ne sois en Australie, car c'est ce qui était prévu pour cette période. Alors, priez pour nous. Et vous, chers pèlerins de cette terre, ceux d'entre vous qui sont en vacances, libérés de leurs tâches quotidiennes et qui aimeraient assister à l'une des séries de réunions, il y aura 3 jours de réunion à Cleveland, dans le Tennessee, à l'Église de Dieu. Je crois qu'il s'agit de l'Église de Dieu pentecôtiste, du mouvement de Tom Linson. Frère Littlefield, David Littlefield, en est le pasteur. Un chrétien, un homme formidable. C'est un Yankee, un nordiste, de Bangor dans le Maine. Mais un vrai chrétien, un bon frère. Et alors, si vous êtes en déplacement et que vous aimeriez venir là, peut-être que la dédicace de l'immense tabernacle qu'ils ont construit aura lieu lundi soir. Puis mardi et mercredi soir de la semaine prochaine, si le Seigneur le veut. Pas cette semaine, mais la semaine suivante. Il y aura des services de guérison. Donc ce sera les 6, 7 et 8. Maintenant, avant d'ouvrir la parole, j'aimerais que nous inclinions la tête un instant pour prier. Seigneur Dieu, notre précieux Père à tous, qui a ramené le Seigneur Jésus d'entre les morts et qui nous l'a présenté sous la forme du Saint-Esprit. Après avoir été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, et il est monté dans la gloire, où il est maintenant assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est toujours vivant pour intercéder. Un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités et qui connaît même le plus petit moineau tombé dans la rue. Comment pourrait-il ne pas tenir compte de la loyauté de ses enfants qui sont assis ce soir dans ce bâtiment surchauffé, rien que pour entendre la parole? Je suis sûr, Seigneur Dieu, que même si nous ne le demandions pas, tu répondrais sur eux tes bénédictions, parce qu'ils se tiennent vaillamment à leur poste ce soir. Il y a des visiteurs ici, Seigneur. Nous prions pour eux et pour leurs églises. Des ministres de l'Évangile qui ont été ordonnés par Dieu, sont assis parmi nous. Et ils sont bien plus compétents que moi pour répondre à ces questions. Aussi, je te prie, Seigneur Dieu, fais que le Saint-Esprit vienne à nous ce soir et qu'il nous donne les choses justes à dire, ce qui remplirait nos cœurs d'une joie ineffable et glorieuse, alors que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, à étudier les Écritures sans parti pris, sans aucun sentiment hostile, mais uniquement dans le but de connaître la vérité et d'adorer la vérité. Accorde-le, Seigneur. Nous te demandons de bien vouloir bénir notre cher pasteur, frère Neville, qui est resté vaillamment à son poste année après année, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, afin de garder et de faire paître les brebis du troupeau qui se rassemblent ici. Je prie que ton esprit soit sur lui, aide-le, et bénis tous ceux qui sont rattachés au tabernacle. Et bientôt, Seigneur, si c'est ta volonté, nous comptons avoir un beau grand tabernacle ici, au coin de la rue, où nous pourrons avoir une école, afin de former de jeunes ministres et les envoyer aux 4 coins de la terre, combattre pour la foi qui était transmise aux saints une fois pour toutes. Seigneur, nous prenons de l'âge, c'est mon cas, et bientôt je devrais remettre la Bible dans les mains de quelqu'un d'autre. Aide-nous, Seigneur, dans cet effort. Réponds à nos questions ce soir par le Saint-Esprit, alors que nous nous confions en lui, car nous le demandons au nom de Jésus ton Fils. Amen. Bon, je sais qu'il fait affreusement chaud, mais je déteste laisser une question sans m'être dit que j'ai fait tout ce qu'il fallait devant Dieu pour y répondre. Bon, nous n'en avons pas beaucoup, je ne les ai pas comptées, seulement quelques-unes. Mais il se peut que nous ne puissions pas toutes les prendre. Cependant, nous aimerions bien, si possible. Je vais demander à cette fillette en rose, assise ici. Viens ici, ma chérie. Je crois que c'est la petite fille de Frère Biller. Je voudrais que tu prennes les questions qui sont là et que tu les mélanges bien. Tu sais ce que je veux dire. Que tu les mettes les unes sur les autres, comme ceci. Tu sais, pour que... Et ensuite, rapporte-les-moi. Tu vois? Comme ça, je ne confondrai pas les questions des personnes. Vous savez, qu'on pense que je n'ai répondu qu'à celle-ci et pas à l'autre. Je ne voudrais pas ça. Donc, que cette fillette les mélange toutes. Et ensuite, nous les prendrons à partir de celles du dessus, tout simplement, et nous y répondrons au fur et à mesure. Maintenant, s'il y avait... Merci, ma chérie. Si jamais il y avait une question dans l'esprit de quelqu'un, je tiens à dire que je serais content... Si, après que j'aurai répondu à votre question, si ça ne vous semble pas satisfaisant, alors signifiez-le en levant la main comme réponse. C'est que j'ai aussi le grec, l'hébreu, ici, les deux, le grec et l'hébreu, dans le lexique du texte original, pour obtenir les informations sur les mots, vous voyez, parce que certaines personnes posent des questions sur les mots, l'hébreu et aussi le grec. Et maintenant, que le Seigneur nous aide dans nos réponses. Et permettez-moi de déclarer clairement, est-ce que vous m'entendez bien, au fond? Si oui, levez la main. Excellent. Permettez-moi de déclarer clairement, là, que je réponds à ces questions sans parti pris. Mais par contre, tout le monde se souviendra qu'au tabernacle, quand il est question de doctrine, nous devons répondre d'après les convictions que nous avons ici. Et ce, non pas pour contredire vos idées, mais pour exposer nos convictions. Et parfois, nous enfonçons le clou très fort. Alors souvenez-vous, c'est uniquement pour que les adorateurs n'aient plus de doute. Maintenant, la première, celle du dessus. Oh oui, c'est une petite question. Ce n'est pas une question, c'est... En fait, oui, c'est une question. C'est quelqu'un qui aimerait avoir un entretien privé avec moi au début de la semaine. Maintenant, pour ce qui est de cet entretien, je vais vous dire comment nous procédons. Autrefois, nous les prenions au hasard. Attrape comme tu peux, qui le premier, ceci ou cela. Mais maintenant, nous avons un système. Et donc, puisque bien des gens qui viennent dans les lignes de prière passent peut-être dans une ligne rapide, ou bien ils ont une affaire à résoudre et ne savent pas ce qu'il faut faire, alors ils voudraient recevoir une réponse du Seigneur. Or, ils y ont parfaitement droit. C'est pour ça que ce don prophétique a été donné. Pour ça, uniquement dans ce but. Dans la Bible, s'ils voulaient savoir quelque chose, ils allaient trouver les prophètes. Ils priaient et chantaient des cantiques jusqu'à ce que Dieu réponde. Voyons, il n'est pas un Dieu qui nourrirait un groupe et ferait mourir de faim un autre groupe. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et donc, c'est à ça que sert ce don. Dans ces entretiens privés, quand nous prenons un cas, je ne le laisse jamais tant que je n'ai pas reçu d'une manière ou d'une autre une réponse de Dieu. Ces choses demandent du temps. Que ça prenne 6 mois ou une année, nous ne lâchons pas, tant que nous n'avons pas eu l'ainsi dit le Seigneur. Vous voyez? Donc ces choses demandent du temps. Et ils sont des milliers à appeler. Mais nous, l'autre jour, un homme est venu là pour, je crois que ça faisait des mois et des mois, que cet homme recherchait le baptême du Saint-Esprit. Un baptiste. Mais nous ne l'avons pas laissé repartir comme ça. Nous l'avons laissé venir, et finalement, par la grâce de Dieu, lors d'un entretien privé, Il venait juste d'entrer. Il avait toujours voulu voir par une vision quel était le problème. Et soudainement, la vision est venue. Et il a reçu le Saint-Esprit pendant qu'il était assis là, sur sa chaise. Et puis un catholique récemment converti est venu de Chicago l'autre jour. Il était là pour des entretiens privés. Depuis au moins 2 ans, il essayait d'en obtenir un. Mais lors de son premier entretien, au bout de 15 minutes dans la pièce, le Seigneur a donné une vision, a montré la raison et tout. Il a révélé tout ce qu'il en était, ce qu'il devait faire avant de recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est à ça qu'il sert. Maintenant, si quelqu'un, n'importe quand, quand on reçoit des appels, que des gens désirent nous voir ou obtenir ces entretiens, ils n'ont qu'à composer Butler 21519. Le bureau peut vous indiquer exactement quand l'entretien pourra avoir lieu. Et là, précisez la raison de votre entretien pour qu'on sache combien de temps y allouer. Et comme ça, c'est juste. Et chaque personne, et si ce laps de temps ne suffit pas, alors nous reprenons le cas plus tard. Il est remis sur la liste et nous ne laissons pas le cas tant que Dieu ne nous a pas parlé, soit par une vision ou par un autre moyen utilisé par Dieu pour se prononcer. Voilà donc la manière dont nous procédons pour les entretiens. Par conséquent, vous voyez, quand je suis absent, parfois les gens pensent, « Frère Branham, vous ne voyez pas assez les gens. On ne peut pas voir les gens et être avec Dieu en même temps. » Voyez, j'ai quelqu'un dans ma pensée et je suis dans la caverne ou ailleurs en train de prier. Et je veux voir ce qui est dit ici. En quelques jours, sur pied est sorti, il... Pardon? Oh oui. Il s'agit d'un homme. Jean vient de poser ça ici. Il y a un homme qui est venu du Chicago l'autre jour. Le médecin voulait couper son cœur, ouvrir pour voir ce qui n'allait pas à l'intérieur. Et le Saint-Esprit a révélé exactement ce qu'il en était. Et il n'a pas eu besoin d'être ouvert. Il a été guéri. Alors, vous voyez, c'est quelque chose de très précieux. Et pour vous montrer que ces choses demandent vraiment beaucoup de temps, j'ai moi-même attendu une réponse de Dieu, une vision, pendant 15 ans. Dieu, et puis... Quelqu'un d'autre vient et n'a pas besoin d'attendre 3 minutes. Voyez, c'est vraiment, Dieu répond en son temps. Ce n'est pas contrôlé par nous, c'est plutôt nous qui sommes contrôlés par cela. Maintenant, la deuxième question, celle du dessus, c'est, Frère Bill, est-ce que le Seigneur peut œuvrer efficacement à travers moi dans une assemblée où on ne croit pas aux dons spirituels? Il n'y a pas de nom, mais c'est quelqu'un qui veut savoir si le Seigneur peut œuvrer avec lui alors qu'il remplit une fonction dans une assemblée qui ne croit pas aux dons spirituels. J'en doute fort. Je doute fortement, mon cher ami, que le Seigneur puisse œuvrer efficacement à travers vous, parce que vous êtes associé à des incroyants. Et la Bible dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug, mais sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Alors, je vous accueillerai. » Je crois que si vous habitez dans une ville où il y a une église qui croit vraiment aux signes et aux dons spirituels, et que ces choses sont agissantes en vous, à votre place, j'irai dans cette église où les gens y croient. Et là, je pourrais dire autre chose, parce que je tiens à donner un passage de l'Écriture. Mon cher ami, vous avez probablement fait tout ce que vous pouviez pour essayer d'amener ces gens à croire. Vous avez essayé de les faire croire, et peut-être qu'ils ne le veulent tout simplement pas. Alors, je vais vous donner un passage de l'Écriture. Je crois que le Seigneur Jésus apprécierait que nous le donnions. Si vous avez essayé, si vous en avez parlé au pasteur, si vous en avez parlé à différentes personnes et qu'ils ne font absolument aucun cas de cela, qu'ils n'y croient pas. Voici ce que Jésus a dit dans Matthieu 7, 6, à propos d'une telle chose. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Donc, je ne crois pas que je m'affilierai à une assemblée qui ne croit pas au plein évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire où on ne croit pas qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors que je suis au milieu d'une assemblée et que je le vois agir là et faire exactement ce qu'il a dit qu'il ferait, je crois qu'il me semblerait tout à fait justifié de dire aux gens de sortir d'une telle chose et de trouver une bonne église qui prêche toutes les Écritures et qui les croit. Maintenant, voici la question suivante. Est-ce vrai qu'on n'est pas sauvé à moins d'avoir reçu le Saint-Esprit? On pourrait passer 5 bonnes heures à discuter de ça. Quand vous acceptez Christ comme votre Sauveur et que vous êtes alors prêt pour le baptême dans l'eau, vous n'êtes pas encore converti. Là, vous croyez seulement en vue de la repentance. La conversion signifie être changé. Maintenant, pour présenter ceci avec efficacité, Jésus a dit à Pierre, qui en plus l'avait suivi pendant 3 ans et demi, et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, Jésus a donné à Pierre le pouvoir de chasser les esprits impurs, d'aller les chasser, de guérir les malades et de prêcher l'évangile. Il avait le pouvoir de le faire. Et dans Jean 17, 17, Jésus a sanctifié Pierre par la vérité. Il a déclaré que la parole était la vérité et il était la parole. Et puis, avant la Pentecôte, il a dit, « Après que tu seras converti, alors affermis tes frères. » Vous faites seulement des pas en direction de la conversion, quand vous croyez et que vous agissez. Bon, je sais que vous êtes nombreux, mes amis baptistes et presbytériens, à ne pas être d'accord là-dessus. En effet, vous vous reportez à ce passage de l'Écriture, voici justement, comme je l'ai dit, là où je dois enfoncer le clou. Voyez, vous vous reportez au passage « Abraham, Romains 4, crut à Dieu, et cela lui fut imputé. » Ou lui fut imparti à justice. Abraham crut à Dieu, et Dieu le lui imputa à justice, sur la base de la foi qu'il a eue pour croire. Mais pour le prouver à Abraham, il lui a donné cette imputation, c'est-à-dire que ses péchés ne lui étaient plus imputés, que là il avait, ses péchés ne lui étaient plus impartis. Parce qu'il avait cru, il lui a donné un signe. Et voilà ce que vous, mes chers amis presbytériens et baptistes, ne voyez pas. Voyez, il lui a donné le sceau de la circoncision comme témoignage, comme preuve qu'il avait accepté sa foi en lui. Voilà pourquoi Paul, dans Actes 19, a dit à ses frères baptistes, qui avait Apollos comme pasteur, qui croyait l'Évangile comme Jean l'avait prêché. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Vous voyez, ils avaient cru, mais ils n'étaient pas encore convertis. Or aujourd'hui, nous donnons un sens inexact au mot « conversion ». Nous disons qu'un homme qui est converti, c'est un homme qui a arrêté de boire et tout, et qui va à l'Église ou qui adhère à l'Église. Il aura beau adhérer à l'Église, mais ce n'est pas signe qu'il est converti. Il n'est pas converti tant que son ancienne vie n'est pas morte et qu'il n'a pas été enseveli en Christ, qu'il n'est pas ressuscité avec lui par la résurrection en nouveauté de vie, quand le Saint-Esprit a créé en lui une espérance vivante de la vie éternelle, ce qui vient uniquement par le Saint-Esprit. Voyez ? Maintenant, je connais ce passage remarquable. Je l'emploie moi-même. Je l'ai noté ici, Jean, chapitre 5, verset 24. C'est un de mes passages favoris. En effet, Jésus a dit ceci, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Je vais le lire pour le citer avec précision, Jean 5, et je voudrais que vous écoutiez bien maintenant, alors que nous prenons ce passage, 5 et le verset 24. « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Celui qui croit en moi. Or, l'Écriture dit que nul ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, vous ne pouvez pas croire que Jésus est le Christ tant que vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Tout ce que vous faites, c'est attester ou dire ce que l'Écriture dit, dire ce que le pasteur dit, dire ce que maman dit, ou ce qu'un bon prédicateur dit. Mais vous ne le savez pas vous-même tant qu'il ne vous a pas témoigné à vous de sa résurrection. Nul ne peut appeler Jésus le Christ tant qu'il ne le fait pas par le Saint-Esprit. Par conséquent, la question est là. Je crois qu'un homme est sauvé s'il regarde vers le calvaire et qu'il meurt dans cet état-là. Certainement, je crois qu'il sera sauvé. Je crois qu'il y parviendra si l'occasion ne lui avait pas été donnée avant. Mais ça dépend de... Vous vous reportez au cas du brigand en train de mourir sur la croix. Mais souvenez-vous, c'était là sa première et sa dernière chance. Vous en avez une ce soir. N'attendez pas ce moment-là, parce qu'il n'en sera peut-être pas de même pour vous. Vous n'aurez peut-être pas la possibilité de faire une confession sur votre lit de mort. Je vais vous dire une chose. Je n'ai rien contre ces confessions-là, mais prendre ce risque, c'est trop risqué. N'attendez pas d'être sur votre lit de mort. Faites de ceci votre lit de mort, cet instant même. Mourez maintenant même et naissez de nouveau du Saint-Esprit. Bon, quant à la question suivante, là, s'il y a une question là-dessus, vous n'avez qu'à lever la main. Je serai heureux de faire de mon mieux. Pouvez-vous trouver un passage où les apôtres ont pris la communion après la Pentecôte? Paul voulait-il dire que les gens ne discernent pas la parole? Que la seule manière d'adorer Dieu, c'était par le Saint-Esprit? Que si nous prenons du vin et des biscuits salés, la maladie et le sommeil tombent sur nous? Maintenant, voici peut-être un cas, je crois, où la chère personne qui demande ceci, il n'y a pas de doute qu'elle s'intéresse profondément et sincèrement à cette question qu'elle pose. Sinon, elle ne la poserait pas. Et moi, mon frère ou ma sœur, quelle que soit la personne, j'y réponds avec autant de profondeur et de sincérité que vous y avez répondu ou que vous l'avez posé. Je veux maintenant que vous preniez avec moi le livre des Actes, au chapitre 2 et au... Nous commençons au verset 42, le chapitre 2 des Actes, et nous commencerons, comme je l'ai dit, au verset 42. Maintenant, souvenez-vous, je ne crois pas pouvoir indiquer un endroit précis où l'Écriture dit que Paul a pris la communion et qu'ensuite Pierre a tendu la main pour la prendre. Mais quand il parle de l'assemblée, il s'agissait là de l'ensemble, de tous. Et je ne crois pas que Paul prêcherait quelque chose et dirait aux autres de faire quelque chose que lui ne ferait pas. Donc, dans les Actes, nous trouvons ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle. Regardez bien, il persévérait. Toute l'Église, le corps, persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Et, une conjonction, là, vous voyez, et dans la fraction du pain. Ça, c'est la communion. Et dans les prières. Les apôtres, qui étaient les prédicateurs, ils persévéraient dans leur doctrine de la fraction du pain, la communion, ainsi que dans la communion fraternelle et dans la prière. Là, si les apôtres sont exclus de la communion, alors les apôtres sont aussi exclus de la prière. Voyez ? Bon, continuons notre lecture. Voyez ? La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous les croyants étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, c'est-à-dire les apôtres et tous les autres. Ils rompaient le pain, la communion, chaque fois qu'ils se réunissaient. C'était là un point de doctrine des apôtres et de l'Église primitive. Chaque fois qu'ils se réunissaient, ils prenaient la communion. Chaque fois. Bon, je sais que vous, les chrétiens qui allez à l'église chrétienne, que nous connaissons sous le nom de l'église Campbellite, c'est qu'il y en a deux. L'une, c'est l'église du Christ, et l'autre, l'église Campbellite. Vous dites, nous la prenons tous les dimanches matins. Nous avons les Écritures à l'appui de cela. Vous avez mieux comme Écriture à l'appui que ce qu'a le Branham Tabernacle. Le Branham Tabernacle l'apprend une fois par mois. Mais l'Écriture dit, toutes les fois que vous vous réunissez, c'est vrai, ça c'est chaque fois. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Vous voyez, toutes les fois, les apôtres, quand il y avait ces groupes de prière, ces réunions dans le temple, dans les maisons, chaque fois qu'ils se réunissaient, ils rompaient le pain, ils prenaient la communion. Maintenant, Paul, dans 1 Corinthiens, nous pourrions aussi lire le chapitre 11. C'est ce que nous employons ici pour la communion. Je pourrais le lire. Ça pourrait peut-être vous aider. 1 Corinthiens, chapitre 11. Écoutez parler Paul maintenant, au verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Maintenant, la coupe. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Voyez, c'est une communion. Je suis tout à fait conscient et tout à fait d'accord que le corps du Seigneur, la parole vivante, c'est Christ lui-même. Mais ces choses-là sont des symboles, tout comme le baptême, le lavement des pieds et les autres ordonnances de l'Église. Mais la communion est absolument essentielle pour ce qui est du pain, là, du pain et du vin. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. Maintenant, la question qui a été posée ici, si nous prenons du vin et des biscuits salés, la maladie et le sommeil tombent sur nous. Vous voyez, c'est que, je crois que la question est là, que la seule adoration qu'il y ait, c'est par le Saint-Esprit. Adorer par le Saint-Esprit, c'est l'exacte vérité. Vous devez adorer. Toute adoration se fait par le Saint-Esprit. Et ce que Paul essaie d'exprimer ici, c'est qu'il faut être dans le Saint-Esprit avant de faire ceci. Sinon, on mange et on boit un jugement contre soi-même. Voyez, avant de faire ceci, avant d'exécuter cet ordre. Maintenant, pour appuyer ça, j'ai ici un écrit de Joseph, dans lequel il déclare que les premiers chrétiens, après la mort de Jésus, passaient pour des cannibales, parce qu'ils prenaient le corps du Seigneur et le mangeaient. On pensait qu'ils l'avaient exhumé et emporté, et qu'ils le coupaient en morceaux et le mangeaient, alors qu'en fait, ils prenaient la communion. Voyez ? Maintenant, regardez bien pourquoi ce passage de l'Écriture, comment Paul l'exprime ici. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain, qu'il mange du pain. Bon, je sais que Jésus est le pain de vie, c'est vrai, mais ceci est un symbole, tout comme le baptême. Le baptême ne vous sauve pas. Le baptême n'est qu'un signe par lequel vous témoignez à l'assemblée que vous croyez à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est pas ça qui vous sauve. L'eau ne sauve pas. C'est votre foi qui vous sauve. Par contre, le baptême est un ordre et il doit être exécuté. En effet, Dieu ne peut pas déclarer qu'il faut être baptisé et déclarer ensuite qu'il n'est pas nécessaire de le faire. Il ne peut pas instituer la communion et déclarer ensuite qu'il n'est pas nécessaire de la prendre. Vous devez la prendre. C'est un ordre pour toujours devant Dieu. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Bon, vous voyez là? Voilà, on en revient au chrétien qui veut prendre la communion sans être en Christ, sans communier par l'Esprit. Il n'est pas digne de la prendre. Et alors, quand il prend cette communion, il mange et boit un jugement contre lui-même. S'il est là à fumer, à mentir, à voler, à commettre adultère, ou quelque chose comme ça, ou qu'il ne mène pas la vie d'un chrétien, les gens voient le genre de vie qu'il mène, puis il vient participer à cette ordonnance qui évoque la mort et le corps de Christ, recevoir en lui un symbole qui atteste qu'il a reçu Christ, la parole, dans son cœur, recevoir en lui ce symbole après avoir fait ces choses. Il dit qu'il mange et boit un jugement contre lui-même, parce qu'il ne discerne pas le corps du Seigneur. Bon, dans quelques minutes, je vais remettre cette même question sur le tapis, si nous y arrivons, parce que, pour le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est dans le même ordre d'idées. Voyez, c'est que vous professez quelque chose et, en faisant ça, vous agissez en hypocrite, chose que vous ne devriez pas faire. Bien, si vous permettez, je vais terminer ceci. Et après, vous voyez, après, nous nous arrêterons. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Maintenant, regardez bien, si quelqu'un mange, si quelqu'un a faim, ne venez pas là, parce que dans un autre passage ici, ils apportaient de la viande et tellement de boissons et de choses comme ça, qu'ils faisaient de la maison du Seigneur un lieu où on festoyait et ils s'enivraient à la table du Seigneur. Vous vous en souvenez, ici, dans l'Épître aux Corinthiens, ils s'enivraient à la table du Seigneur. Mais Paul dit ici, « Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. » Voyez ? Ainsi donc, je crois que le fait de manger un biscuit salé, or, je ne crois pas qu'on devrait remplacer le pain cachère par un biscuit salé. Je crois que ça devrait être un pain sain, sans levain, le genre de pain sans levain qui était préparé en Égypte. Et je crois que le sang, ça ne devrait pas être du jus de raisin, mais que ça devrait être du vin. Le jus de raisin devient aigre et s'avarie en vieillissant. Le vin, au contraire, se bonifie et prend plus de force en vieillissant. Il ne perd jamais sa force. Le sang de Christ ne devient ni aigre ni avarié en vieillissant. Il prend plus de force et se bonifie au fil des jours pour le croyant. Et c'est du vrai vin et du vrai pain. Le pain de la communion devrait être fait par des personnes qui ont donné tout leur être à Dieu, qui se sont consacrées à lui. Une fois, je suis allé dans une église où ils ont pris une simple miche de pain, là où des pécheurs blasphémaient et se conduisaient n'importe comment et dans la souillure. Et ils ont coupé ce pain en morceaux et ils ont mis ça là avec une sorte de jus qu'il fallait boire. À mon sens, c'était ridicule. Je crois que ce devrait être fait exactement comme l'Écriture le dit. Ne déviez en rien des Écritures, sans tenir strictement à elles. Question. Maintenant, frère Branham, est-ce vrai que Satan était au ciel à un moment donné et qu'il en a été chassé, que lui et ses anges sont descendus sur la terre? Ou est-ce une vision comme celle que Jean a eue sur l'île de Patmos? La raison pour laquelle je demande ceci, c'est qu'on m'a dit que c'était une vision. Jean l'a vu sous la forme d'une vision, mais c'est réellement arrivé. Si vous voulez bien prendre Ésaïe 14, 12. Bon, ces questions n'avancent pas vite, mais pour moi, ce sont des leçons. Et c'est quelque chose qui, vous pensez peut-être, eh bien, je n'ai pas besoin de ça maintenant. Vous ne savez pas à quel point le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Il a besoin de la parole pour se nourrir, parce que le Saint-Esprit se nourrit uniquement de la parole de Dieu. Vous croyez ça? La Bible dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Très bien. Le chapitre 14 d'Ésaïe. Et maintenant, je crois que nous allons commencer ici au verset 12. Lisons maintenant ce qui concerne Lucifer. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Tombé du ciel, fils de l'aurore, un être angélique du ciel. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi qui marchais, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel et j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. » Donc, vous voyez, ce n'était pas une vision. Absolument. Lucifer a été chassé du ciel. Maintenant, prenons dans le Nouveau Testament, Luc 10, 18. Juste un instant. Et voyons ce que Jésus a dit. Dans l'évangile de Luc, vous avez déjà vos Bibles, vous qui essayez de suivre ces questions. Luc 10, 18. Jésus leur dit, c'est Jésus qui parle, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Vous voyez, Satan était, à l'origine, l'archange de Dieu. À un moment donné, il habitait dans le ciel. À un moment donné, il était la personne la plus importante dans les cieux, après Dieu. Il était le bras droit de Dieu. Il était en communion. Et son cœur s'est enflé d'orgueil. Et n'est-ce pas là exactement ce qui arrive aux gens aujourd'hui? Il suffit que Dieu bénisse quelqu'un et lui fasse un peu confiance. Et là, il devient quelqu'un qui croit tout savoir. Il faut qu'il commence une organisation. Ou bien, il faut qu'il fasse quelque chose qui soit différent. Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer? C'est Dieu a du mal à trouver quelqu'un avec qui il puisse traiter, qui reste humble et doux, et qui reste là où il est jusqu'à ce que Dieu l'appelle à faire quelque chose. Vous croyez ça? Voyez, un homme que Dieu peut bénir et qui garde son statut d'homme, sans chercher à être un ange ni un dieu. Dès qu'un homme est béni et qu'il reçoit une petite chose, il veut devenir un Dieu, il veut devenir un ange, il veut devenir une personne importante. Ce que moi, je fais, ce que moi, et les miens, et tout ça, ce n'est pas la bonne attitude. Dieu est à la recherche de quelqu'un qu'il pourrait bénir, sur qui il pourrait répandre les bénédictions, et plus il le bénirait, plus cet homme deviendrait petit. Vous ne pourrez jamais recevoir plus de Dieu avant d'être devenu rien. Vous devez vous rabaisser. Celui qui s'élèvera, Dieu l'abaissera. Celui qui s'abaissera, Dieu l'élèvera. Vous devez devenir petit avant de pouvoir devenir grand. et vous ne serez jamais grand par vous-même. C'est seulement si Dieu est grand en vous que vous le serez aussi. Voyez ? Donc Lucifer est sur la terre aujourd'hui, cherchant à agir dans l'Église pour atteindre le but même qu'il poursuivait, ce qu'il avait entrepris avant la fondation du monde. Lucifer a été chassé du ciel. Bien, je crois que j'ai autre chose de noter ici. Ézéchiel, chapitre 28, verset 12. Voyons ce qui est dit là, dans Ézéchiel 28, 12. Je suis sûr qu'en étudiant ceci, en l'examinant, en voyant ce qu'est l'ainsi dit le Seigneur, alors nous saurons s'il est vraiment tombé du ciel, ou si c'était seulement une vision. 28, 12. Bien, je crois que c'est ce que j'ai inscrit. 28, 12. Bien, allons-y. Bon, ici, c'est une chose extraordinaire. Je souhaiterais qu'on ait le temps de prêcher un peu là-dessus, voyez, car c'est vraiment quelque chose. Maintenant, comme je viens de le démontrer, Lucifer, dans le ciel, a essayé de s'élever, et même d'être un peu plus haut que son chef. Il a trahi Michel. Il s'est fait un grand royaume au nord, et il est descendu. Bon, et lui et ses anges ont été chassés. La personne a demandé à propos de l'Apocalypse, c'est dans Apocalypse 12, sur l'île de Patmos. Mais maintenant, remarquez ceci ici, au verset 12, et regardez bien comment il s'installe dans le royaume de l'homme. Combien de personnes ici comprennent que le diable dirige toutes les nations qui sont sous le ciel? Le diable dirige les États-Unis. Le diable, c'est lui le gouvernement des États-Unis. Le diable, c'est lui le gouvernement de l'Allemagne. Il est le gouvernement de toutes les nations qui sont sous les cieux. Le diable dirige toutes les nations. La Bible le dit. Lisez Matthieu, chapitre 4, quand Satan a transporté Jésus au sommet de la montagne, qu'il lui a montré les royaumes du monde, qu'il a déclaré qu'ils étaient à lui et qu'il a dit, « Je te les donnerai si tu m'adores. » Jésus n'a jamais dit, « Tu mens, Satan. » Il savait qu'il lui appartenait. Mais là, dans le livre de l'Apocalypse, il est dit, « Réjouissez-vous, cieux et terre, car les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ. Et il régnera sur la terre. » Jésus savait que dans le millénium, tous les gouvernements et les royaumes seraient détruits, et qu'il serait Dieu et chef de tous. Il savait qu'il hériterait de tout ça, et donc il a dit à Satan, « Arrière de moi, Satan !» Car il savait ce qu'il avait à faire. Maintenant, écoutez ceci, c'est l'Esprit du Seigneur sur ce prophète Ézéchiel, qui s'adresse non pas à ce roi, mais à l'Esprit qui est dans le roi. Maintenant, regardez bien ceci. Vous vous souvenez, ce matin, là, je vous ai montré dans les Écritures que l'Église a fait fausse route en acceptant les organisations des hommes. De même, Israël a fait fausse route en rejetant Dieu comme roi et en désirant avoir Saül comme roi. Et quand leur vrai roi est venu, Jésus, ils ne l'ont pas reconnu. En effet, sa prédication et son enseignement étaient tellement différents de ceux des rois terrestres qu'ils ne l'ont pas reconnu. Et aujourd'hui, quand le roi de l'Église, le Saint-Esprit, quand il est ici et qu'il vient dans l'Église afin de régénérer les gens, de leur donner la nouvelle naissance, c'est tellement différent des organisations et des dénominations qu'ils disent « Ah, ça m'a l'air d'être des exaltés, ça !» Voyez ? Ce qui compte, ce n'est pas de quoi ça a l'air à vos yeux, c'est ce que la parole de Dieu en dit. Regardez le jour de la Pentecôte, ça avait l'air de quoi? Regardez les autres fois que ils ont reçu le Saint-Esprit, ça avait l'air de quoi? Ces femmes et ces hommes, la Vierge Marie et tous les autres, qui titubaient comme des hommes ivres, qui vacillaient, qui poussaient des cris avec des lèvres balbutiantes et d'autres langues, qui se conduisaient comme une bande d'idiots. Mais ils étaient en train de mourir à eux-mêmes, et le Saint-Esprit entrait en eux. Ils ont embrasé le monde connu d'alors. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des hommes qui meurent à eux-mêmes, qui pourrissent à eux-mêmes, qui brûlent tous les ponts derrière eux et qui abandonnent tout à Christ. Regardez bien, le Saint-Esprit s'adresse là au diable qui est dans ce roi. Regardez, qui est ce personnage qui dominait sur ce roi? Vous vous souvenez de ce que j'ai dit ce matin? Ce que mon épouse a dit à propos de cette femme, là-bas? De toutes ces femmes qui portaient ces vêtements indécents, dégoûtants? Voyez, elle a dit, elles ne doivent pas avoir toute leur raison. Une femme qui a toute sa raison ne s'exhiberait pas comme ça. J'ai dit, chérie, c'est une Américaine, c'est tout. C'est la coutume ici. Elles le font parce que c'est la coutume. Vous voyez, elles se laissent guider par leur intellectualisme. Mais votre intellectualisme, si vous vous laissez guider par votre tête, vous êtes dominé par le diable. Le diable s'est emparé de la tête de l'homme. Dieu, lui, s'empare du cœur de l'homme. Le diable vous fait regarder quelque chose que vous pouvez voir. Vous dites, eh bien, c'est vrai, raisonne, raisonne la chose. Mais la Bible nous amène à renverser les raisonnements. Et par la foi, nous croyons des choses que nous ne voyons pas. Voilà ce que Dieu fait quand il vient dans le cœur humain. Dans le jardin d'Éden, le diable s'est emparé de la tête de l'homme. Dieu s'est emparé de son cœur. C'est ça le trône de Dieu, l'endroit où Dieu habite, dans le cœur humain. Et maintenant, si c'est par l'intellect, et bien sûr, l'homme ou la femme qui est née de Dieu agit comme le royaume d'où il vient. Alléluia! Avec ça, moi aussi, j'ai envie de pousser des cris. Pourquoi? En effet, quand vous savez que vous êtes passé de la mort à la vie, parce que vous haïssez le péché et que vous aimez Dieu, et vous tenez ferme à la vie, à la mort, vous tenez ferme, c'est mal, et vous appelez le mal, mal, et vous marchez avec droiture devant Dieu. Ça montre que votre esprit, la vie qui est en vous, vient d'un autre endroit, où les choses sont saintes et pures, vierges, exemple de souillure. Vous dites, la guérison divine? Bien sûr, mon esprit vient d'un endroit où se trouve le guérisseur divin. Nous venons d'un pays de guérison divine. Amen. Vous dites, vous croyez que Dieu existe? Bien sûr, ces choses viennent du pays où se trouve Dieu. Et nous sommes pèlerins et étrangers, comme Abraham et Isaac. Eux, après avoir été seulement couverts de l'ombre du Saint-Esprit, ils ont traversé le pays en confessant qu'ils étaient pèlerins et étrangers. Ils cherchaient une ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et maintenant, nous, après avoir eu la preuve qu'il vit en nous, à combien plus forte raison devrions-nous être pèlerins et étrangers, passant de ce monde en détournant la tête des choses mauvaises, parce que nous sommes d'une autre nation, d'un autre peuple, certainement. Maintenant, observez la mainmise du mal dans ce monde, tandis que nous lisons Ézéchiel 28, 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Maintenant, regardez bien, il s'adresse à l'Esprit qui est dans le roi, voyez. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau au soleil. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Satan, le voyez-vous, là, que Satan était le plus beau des archanges. Tu étais en Éden. Or, vous savez bien qu'à cette époque-là, le roi de Tyr n'aurait pas pu être en Éden, puisque ça s'était passé 4000 ans plus tôt. Voyez, tu étais en Éden. À qui parle-t-il? Il parle à Satan. Qui est dans ce roi? Alléluia! Frère, je me sens religieux. Quand? Et alors, que vont faire ces gens qui blasphèment et se moquent des gens qui agissent sous l'action du Saint-Esprit? Quand ils se moquent de ces gens, ils blasphèment contre le Saint-Esprit, ce qui est absolument impardonnable. Ce n'est pas à cet homme que vous parlez à l'Esprit qui agit dans cet homme. Nous devrions nous honorer les uns les autres et nous aimer les uns les autres, nous exhorter les uns les autres, dire du bien les uns des autres. Voilà ce que nous devrions faire. Maintenant, écoutez ceci. Bien. Tu mettais le sceau au soleil. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais même couvert de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraudes, d'or. Tes tambourins et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Voilà Lucifer. À un moment donné, il habitait en Éden. Bon, nous allons revenir à cette question dans un instant. Lucifer en Éden. C'est qu'on a la semence du serpent ici quelque part, ce qui est un point très délicat. Je me disais que j'allais espérer que celle-là soit à peu près la dernière. Mais il y était. Le diable avait été chassé du ciel. Et le but même qu'il s'était proposé d'atteindre dans le ciel, voici qu'il est descendu ici sur la terre, où il fait tout ce qu'il peut pour accomplir ce but. Il va vers les rois et vers les dirigeants, et quand il réussit à les attraper, alors il vient jusqu'à l'église et attrape les gens, ou attrape le prédicateur. Puis, par le prédicateur, il pénètre jusque dans l'assemblée et amène l'assemblée sous la même influence. C'est le même démon qui fait les mêmes choses. Tu sais, tu es presbytérien, tu ne seras jamais un exalté. Tu es ceci, cela ou autre chose. Tu ne peux pas te permettre de te couvrir de honte en te retrouvant parmi ces gens-là. Voyons, tu as mieux à faire que de t'asseoir dans un de ces petits tabernacles ou dans une de ces petites missions qu'il y a dans la rue. Voyons, ces gens ont perdu la tête. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ils suivent leur cœur, c'est tout. Ils n'ont pas perdu la tête. Ils sont simplement dirigés par leur cœur. Dieu vit dans leur cœur, et ils sont un peuple acquis, un sacerdoce royal, offrant un sacrifice spirituel, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui donne la louange à Dieu, qu'ils en aient envie ou pas. Parfois, je ne le vois pas, a dit le compositeur de cantiques. Je lui fais confiance et lui donne la louange. Vous dites, eh bien, j'irai à l'église et je louerai le Seigneur, si j'en avais envie. Mais bon, un sacrificateur est censé présenter un sacrifice. Et vous, l'Assemblée, vous êtes des souverains sacrificateurs de Dieu qui doivent présenter un sacrifice spirituel, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui donne la louange à Dieu. Vous allez quelque part et vous dites, « Eh bien, si j'en avais envie, j'irais témoigner à quelqu'un. » Eh bien, faites-le quand même. Si vous êtes un souverain sacrificateur, frère, cela brûle dans votre cœur, que vous ayez envie de le faire ou pas. Allez, faites-le quand même, parce qu'il faut que vous fassiez un sacrifice, quelque chose de difficile à faire. Allez, faites-le quand même. Vous êtes un sacerdoce spirituel, un peuple royal, qui donne la louange à Dieu, parce que Dieu vit dans son cœur. Maintenant, si vous êtes de Satan, vous estimez que vous êtes un peu meilleur que cette catégorie de gens-là. Or, comment savoir qui a raison? Reportez-vous aux Écritures. Si un homme est né de Dieu, il croit chaque parole que Dieu a écrite. Il déclare qu'il est tout aussi grand aujourd'hui qu'il a toujours été, qu'il ne change jamais, qu'il est exactement le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il est rempli du Saint-Esprit, il a reçu le même Saint-Esprit que celui qu'il a donné le jour de la Pentecôte. Et celui-ci le fait agir de la même manière et lui fait faire les mêmes choses. S'il est né de l'Esprit de Dieu, Marc 16, Jésus a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » C'est vrai. Donc s'il dit, « Je suis un croyant » et que ces signes ne l'accompagnent pas, alors il est un soi-disant croyant et non un croyant. Il y a trois catégories de gens, le croyant, le soi-disant croyant et l'incroyant. Il n'y a que ces trois catégories. Beaucoup de soi-disant croyants. Il y a beaucoup de vrais croyants. Il y a beaucoup d'incroyants. Mais si vous êtes un vrai croyant, Jésus a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'il leur arrivait de marcher sur un serpent, frère Evans, cela ne leur ferait point de mal. » S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Oh, c'est aussi vrai que la parole de Dieu est vraie. Nous n'avons pas le droit d'en retirer quoi que ce soit. La Bible dit que celui qui retranchera ou qui ajoutera quelque chose à cette parole sera lui-même retranché du livre de vie. Dieu est tellement parfait que chaque parole doit être parfaite et doit concorder. Toujours pareil, de la Genèse à l'Apocalypse. Chaque parole, chaque commandement de Dieu. Par contre, on pourrait lui faire dire quelque chose ici et entendre le sens ailleurs. Un jour, j'étais assis sous un arbre, là-bas, avec frère Charlie et frère Wood, que voici. Nous étions à la chasse, dans le Kentucky. Nous chassions à la carabine. Et je, frère Charlie et frère Wood, avaient ajusté leur carabine ce matin-là. À environ 50 mètres, ils atteignaient une cible à peu près grande comme ça, aussi grande qu'un écureuil. Il disait, « Ça va, je suis allé là-bas, moi qui avais enfoncé les punaises à 50 mètres, et j'ai manqué l'œil de l'écureuil. Je l'ai touché à la joue. J'ai dit, « Ça ne va pas, ça. Ma carabine s'est désajustée. » Et je me suis tracassé toute la journée. Le lendemain soir, je suis rentré tôt. J'ai tiré plusieurs boîtes de cartouches. Le coup atteignait la cible, mais juste un peu, 13 mm, trop à droite. Alors bien sûr, l'écureuil aurait quand même été touché à la tête. Donc, le lendemain matin, Charlie et les autres étaient là-bas. Les carabines ne cessaient de crépiter, de toucher des écureuils. Et moi, j'étais assis derrière un arbre, à me tordre les mains, en disant « Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, ma carabine ?» J'ai eu tellement honte de moi que je me suis mis à genoux et j'ai dit « Seigneur Dieu, je ne sais pas ce que j'ai. Pourquoi est-ce que tu m'as fait comme ça? Le petit nerveux qui se tracasse tout le temps. Mais pourquoi est-ce que je suis comme ça? Les autres sont là-bas. Ils tirent sur les écureuils comme des mitrailleuses. Ils ont déjà de quoi faire une platée d'écureuils. Tandis que moi, je suis assis derrière un arbre, à me tordre les mains et à me poser des questions. Mon fusil n'arrive pas à enfoncer une punaise à 50 mètres. J'ai pleuré, assis là, près d'un tronc. Et alors, le Saint-Esprit est venu, pas par une voix, mais par la révélation. Il a dit, je t'ai fait comme ça, dans un but. Pourquoi je ne peux pas faire dire quelque chose à la Bible ici, comme l'Église qui dit, le Saint-Esprit, c'était seulement pour le groupe qu'il y avait à cette époque-là. C'est ce que dit l'Église. Alors que l'Écriture dit, celui qui veut, ça ne touche pas à la cible, ça. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas avec le calvinisme qu'on n'est qu'à croire au Seigneur et on a la sécurité éternelle. Et avec l'arminianisme selon lequel il suffit de ne pas prendre, de ne pas toucher, de ne pas goûter. J'aimerais bien, mais je n'ai pas le droit. L'arminianisme est trop éloigné du calvinisme et les deux sont une erreur. Il faut que je voie où les deux s'appuient sur des passages de l'Écriture. Mais il faut que cela touche la cible. Or, si Dieu a dit une chose dans cette Bible, il faut que cela touche la cible. Il faut que cela fasse converger tous les cercles concentriques de cette Bible pour toucher la cible en plein centre. Il le faut, parce que c'est la parole de Dieu. Elle est infinie. Elle ne peut pas changer. Amen. J'aime ça. Parce qu'alors, vous pouvez être parfaitement convaincu que c'est la parole éternelle de Dieu. C'est pour cette raison que j'essaie de l'étudier en prenant différents passages pour pouvoir y dégager voir ce qui y est dit. Bien, Satan a réellement été chassé du ciel par l'archange Michel et par Dieu. Il a été précipité sur la terre. Il est venu sur terre. Il est entré dans le serpent, a séduit Ève. Et ensuite, il est entré dans les hommes, les femmes, tout au long de l'âge. Il fait toujours la même chose que ce qu'il avait commencé à faire au commencement. Un immense royaume, plus beau que celui de l'autre. On domine sur tout, on croit tout savoir. Notre dénomination est la plus grande. Elle surpasse les autres. Vous les avez entendus dire, eh bien, nous avons tant de centaines de prédicateurs dans notre organisation. Nous avons les plus grandes églises de la ville. Pour moi, ça ne peut pas s'appeler autrement que S-A-T-O-N, ça. C'est vrai, pour moi, ça veut dire le diable. Quand on a des hommes qui mettent la division et qui forment des organisations, qui détruisent la fraternité et qui déclarent qu'ils n'auront rien à faire avec la petite église. Je n'ai encore jamais vu de personne trop avilie. Je n'ai encore jamais vu de personne trop enfoncée dans le péché. Je n'ai jamais vu de femme tomber trop bas ou d'homme tomber trop bas pour que je puisse aller vers lui, l'entourer de mes bras et le sortir de là si je peux y arriver. Je n'ai jamais vu de bande d'exaltés ou quel que soit le nom que vous voulez leur donner. Acclamer, sauter, crier à tue-tête ou autre chose, sans que je m'y lance à mon tour, que j'acclame, que je saute et que je crie à tue-tête avec eux pour glorifier Dieu. C'est tout à fait exact. Qu'ils soient noirs, jaunes, bruns, blonds ou quoi qu'ils soient. Oui, monsieur. Le Saint-Esprit ne vient qu'à un seul niveau. Il faut avoir satisfait aux exigences de Dieu. Si vous le recevez un jour, vous en serez venu là pour avoir atteint le niveau exigé par Dieu. Et non celui de vos idées personnelles à ce sujet. Satan cherche à produire quelque chose qui a de la classe, quelque chose d'imposant, quelque chose de grand, d'intellectuel. Vous devez renverser ce raisonnement et croire ce que la parole dit à ce sujet. Amen. Maintenant, en voici une autre. Voyons ce que c'est. Très bien. Veuillez expliquer la parabole des cinq vierges. Est-ce que le chrétien pêche? Bon, la parabole des cinq vierges, ou plutôt des dix vierges, veuillez m'excuser. On trouve les dix vierges dans Matthieu 25, 1. Dix vierges sont sorties à la rencontre de l'époux. Maintenant, remarquez, et cinq d'entre elles étaient sages, elles avaient de l'huile dans leurs lampes. Cinq n'étaient pas sages, elles n'avaient pas d'huile dans leurs lampes. Pendant qu'elles étaient assoupies, le cri s'est fait entendre. Allez à la rencontre de l'époux. Celles qui avaient de l'huile dans leurs lampes ont préparé leurs lampes. La femme brûlait. Elles sont sorties à la rencontre de l'époux. Les autres sont venues, désirant acheter de l'huile. Et elles leur ont dit d'aller chercher de l'huile chez ceux qui en vendent. Pendant qu'elles y allaient, l'épouse est venue. Et là, la vierge sage est entrée. Et la vierge endormie a été jetée dehors. Ceci va faire mal, vraiment mal. Mais il faut absolument que je le dise. Ce n'est pas moi qui ai posé la question. Je suis seulement responsable d'y répondre. Maintenant, ceci va nous concerner de si près, frère. De si près que j'espère que ça va aider et non faire mal. En général, il faut faire mal. Comme maman avait l'habitude de dire, quand elle me donnait une correction, elle disait, « Il faut que ça fasse mal avant que ça te fasse du bien. » Eh bien, c'est vrai, voyez. À l'époque, je ne le voyais pas. Mais maintenant, je le vois. Regardez les 10 qui sont sortis. Toutes, elles étaient vierges. Donc, 10 vierges sont allées à la rencontre du Seigneur. Or, le mot « vierge » signifie « sanctifié ». Est-ce que quelqu'un sait ça? Saint, pur, sanctifié. 10 d'entre elles sont sorties à la rencontre du Seigneur. Maintenant, souvenez-vous, elles s'étaient endormies pendant la première veille, la deuxième veille, la troisième veille, et ainsi de suite, jusqu'à la septième veille. Mais ces dernières sont vraiment allées à la rencontre du Seigneur. Et souvenez-vous, comme elles y allaient, le Seigneur est venu. C'était le temps de la venue du Seigneur. Non pas celles qui avaient été là pendant la veille. Jésus a dit que certaines s'étaient endormies pendant la première veille, certaines pendant la deuxième veille, certaines pendant... Mais à la venue du Seigneur, elles se sont toutes réveillées. Par contre, dans ce cas-ci, c'était à la dernière veille, parce qu'elles sont sorties, 10 d'entre elles, à la rencontre du Seigneur. Et 5 ont laissé leur lampe sans fumée et n'ont pas pris d'huile. 5 avait de l'huile. Maintenant, souvenez-vous, l'huile, dans la Bible, c'est un symbole de quoi? Quelqu'un peut-il le dire? Du Saint-Esprit. Donc, vous pouvez être propre, pur et sanctifié sans avoir le Saint-Esprit. La purification est ce que vous... Maintenant, regardez bien. Je vais prendre, par exemple, cette bouteille. Elle est là, par terre, dans la basse-cour. Elle est pleine de saleté. Je la ramasse. C'est la justification. Je vais me servir de ce pécheur. Ensuite, ce que je vais faire, si je veux m'en servir, je vais devoir la nettoyer. Et alors, si je la nettoie, qu'est-ce que je lui fais? Je la sanctifie. Le mot sanctifier signifie nettoyer. La même chose que saint. Saint vient d'un mot hébreu. Sanctifié vient d'un mot grec. Le mot sanctifié signifie nettoyer et mettre à part pour le service. Mais ensuite, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront remplis. C'est là qu'ils sont mis en service. Les ustensiles, le tabernacle de l'Ancien Testament, l'autel sanctifiait les ustensiles. Et ceux-ci étaient mis à part pour le service. Quand ils étaient remplis, ils étaient en service. Maintenant, voilà où vous, chers et précieux Nazaréens, et les autres aussi, vous avez passé à côté. Voyez, nous tous, pourquoi est-ce que vous échouez? Pourquoi est-ce que la Pentecôte est partie et vous a laissé en plan? Parce que vous avez refusé de marcher dans la lumière. C'est tout à fait exact. Voyez, c'est exact. Le premier autel où je me suis agenouillé, c'était un précieux vieil autel nazaréen, ici. Que Dieu les bénisse. C'est une bonne église propre, sainte. Mais vous êtes tellement légaliste que vous dites, vous devez faire ceci et vous devez faire cela, vous devez faire ceci, et vous ne vous rendez pas compte que c'est la grâce de Dieu et que vous avez été appelé par élection. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Voyez, Dieu a prédestiné l'Église avant la fondation du monde. Nous allons avoir une question là-dessus dans quelques minutes. Voyez, a prédestiné l'Église avant la fondation du monde. Vous ne pouvez pas, par vos inquiétudes, ajouter une coudée à votre taille. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Voyez, et voyez, c'est Dieu qui a appelé. Dieu qui a attiré, Dieu qui a établi l'Église. Bon, là, vous dites, frère Branham, ça, c'est du pur calvinisme. Non, pas du tout. Bon, attendez, je ne crois pas que Dieu prend un homme et dit simplement, écoute, je vais te prendre et... Tous ces baptistes et ces presbytériens qui disent, eh bien, moi, je crois au Seigneur, je n'ai pas à... Ça ne me donne pas mauvaise conscience. Pas étonnant, vous n'en avez pas de conscience. Ils disent, eh bien, ça ne me fait pas de mal de danser. Ça ne me ferait pas de mal de boire un petit verre en société. C'est qu'il n'y a rien au-dedans qui puisse avoir mal. Ça ne me dérangerait pas de raconter des plaisanteries grossières. Pourquoi donc? Il n'y a rien au-dedans qui puisse avoir mal. Par contre, je ne sers pas le Seigneur parce que je pense qu'il m'enverrait en enfer si je ne le faisais pas. Je le sers parce que je l'aime. Je le sers parce qu'il y a quelque chose en moi. Si vous allez quelque part et que vous dites, « Eh bien, il faut que j'arrête de faire ceci, parce que mon Église n'approuve pas. » Vous agissez en hypocrite, c'est tout. C'est vrai. Mais si vous le faites parce que vous aimez le faire, et que c'est un apport à la cause de Dieu, parce qu'il y a quelque chose dans votre cœur qui fait qu'en vous, l'amour de Dieu est tellement plus grand que ces choses, alors là, vous êtes sur le bon chemin. Mais même si je ne buvais pas, ne fumais pas, ne chiquais pas, ne jurais pas, ni rien, j'irais quand même en enfer. Bien sûr, j'aurais beau avoir adhéré à toutes les églises, avoir été baptisé, avoir mis mon nom sur tous les registres, avoir rempli un beau rôle et vécu une bonne vie. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume de Dieu. C'est vrai. Alors ces vierges, 10 d'entre elles ont ralenti. Ce qui a empêché les Nazaréens d'avancer, c'est ceci. Parce que les pentecôtistes ont établi le parler en langue comme signe initial du Saint-Esprit. Ils ont fait avancer les gens devant l'autel et répété quelque chose sans arrêt jusqu'à ce qu'ils parlent en langue. Un vrai, véritable pentecôtiste n'accepterait pas ça. Dans votre église nazaréenne aussi, le diable y avait introduit beaucoup de choses. Voyez, de même, il a introduit un tas de choses dans l'église pentecôtiste. Mais pour ce qui est du baptême du Saint-Esprit, ça, c'est la vérité. C'est l'exacte vérité. Beaucoup de ces choses, je sais, j'ai entendu des gens parler en langue. Je ne peux pas juger. Je n'ai pas été envoyé pour juger. J'en ai entendu, et beaucoup, qui sonnaient comme un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Par contre, je sais qu'il y a un vrai Saint-Esprit qui parle en langue. Ça, je sais que c'est vrai. Oui, monsieur. Mais ils ont vu les gens qui entraient et qui disaient, « Gloire à Dieu, je l'ai reçu. » Eh bien alors, c'est la même chose. Allons, ne dites pas que ce sont des pentecôtistes parce qu'ils ont sautillé et parlé en langue et que vous les avez vus quelque part avec la femme d'un autre ou le mari d'une autre. Vous dites, « Est-ce le Saint-Esprit, ça ? » Vous, les Nazaréens, vous avez poussé des cris partout dans la salle et vous avez fait la même chose. Vous disiez l'avoir reçu au moment où vous aviez poussé des cris. Voyez, vous ne pouvez absolument pas le prouver autrement que par la vie que vous vivez. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est comme ça. Une vie consacrée et Christ qui agit en vous, confirmant les paroles, les signes et les prodiges vous accompagnent. Et une vie consacrée, c'est ça la chose véritable. Or, on peut avoir beaucoup de signes sans avoir la vie. On peut imiter la vie sans avoir les signes. Mais quand vous voyez les deux ensemble, alors là, ça y est, c'est ça le véritable. Bon, et puis, souvenez-vous, l'épouse, maintenant permettez-moi de terminer ce point, si vous voulez bien m'accorder quelques minutes pour toucher ça. Regardez, une femme s'apprête à tailler une robe. Elle a une grande pièce de tissu. On appelle ça comment? Du calico, du vichy? Ou quelque chose comme ça, un nom que vous utilisez. Disons que c'est de la soie. Elle a un patron. Elle regarde cette grande pièce de tissu. Maintenant, c'est elle qui décide où elle va poser ce patron. Pas vrai? Elle peut choisir n'importe quelle partie de ce tissu. Tout le tissu est sanctifié. Il est propre. Vous voyez, c'est l'élection. L'élection de Dieu. Alors, que fait-il? Dieu, par élection, prend ce patron de Christ et le place où il veut sur le tissu. Ensuite, le tissu est coupé. Le reste du tissu est tout aussi sain que cette partie s'il était. Mais par choix, Dieu a fait son choix avant la fondation du monde. Paul n'a-t-il pas dit dans Romains 8, que est-ce que le potier peut, est-ce que l'argile peut dire au potier, pourquoi me fais-tu ainsi? Est-ce que Dieu, qui est juste, alors qu'il avait pu dire à Ésaü et Jacob, avant que ni l'un ni l'autre de ces garçons ne soient nés, ou n'ait fait ni bien ni mal, je hais Ésaü et j'aime Jacob. C'est que, par sa prescience, il savait ce qu'Ésaü était et ce que Jacob était. Il sait ce qu'il y a dans l'homme. Avant la fondation du monde, il savait, il... Si on pouvait expliquer le mot « infini », eh bien, le mot « infini », disons qu'il y ait eu 100 milliards de tonnes de moucherons dans le monde. C'est encore rien. 100 milliards de tonnes de moucherons dans le monde. Et que chacun d'eux ait cligné des yeux, 100 billions de milliards de fois. Eh bien, pas un seul d'entre eux n'a cligné des yeux sans que Dieu l'ait su avant la fondation du monde. Infini, c'est ça. Voilà quelque chose qui illustre le mot infini. Voyez, il est infini. Donc, avant la fondation du monde, il savait exactement ce que vous feriez. Et il a envoyé Christ, pas seulement pour être, au cas où quelqu'un, eh bien, si j'arrêtais d'être méchant et que je le suive, ou quelque chose du genre, ce n'est pas ça. Il savait qui serait sauvé. Alors, il a envoyé Christ pour sauver ceux qui, selon ce qu'il avait vu d'avance, seraient sauvés. C'est tout à fait exact. Or, l'Église, elle, a la sécurité éternelle. Si vous êtes dans l'Église, vous êtes en sécurité avec l'Église. Par contre, quand vous sortez de l'Église, vous n'êtes pas en sécurité. Voyez? Alors, restez dans l'Église. Comment entrez-vous dans l'Église? En vous donnant la main? En inscrivant votre nom sur un registre? Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est ça l'Église. Comment? Par le baptême du Saint-Esprit. Nous avons été scellés dans le corps de Christ. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour de votre rédemption. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Scellés et mis à part jusqu'au jour de votre rédemption. Bon, certainement. Certainement, c'est ça le Saint-Esprit. Et donc, cette Église-là a été enlevée. Et le reste de la postérité de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont foi en Jésus-Christ, voyez, non par l'épouse, mais le reste de la postérité de la femme. Alors le dragon a lancé de sa bouche de l'eau pour faire la guerre au reste de la postérité. Ça, c'est quand l'Église protestante, sous la direction de la Fédération des Églises, qui est l'image de la bête, en train de se former maintenant. Il y aura un boycottage de toutes les églises comme celle-ci. C'est comme la rencontre importante que nous avons ici, en ce moment, avec les impôts, ce litige. Ils essaient de dire que nous ne sommes pas une église, alors que nous avons des droits constitutionnels qui nous permettent de déclarer que nous sommes bien une église. Aussi longtemps que la Constitution reste en vigueur, qu'il n'y a pas d'amendement, alors nous avons ces droits-là. Absolument. Autant de droits que n'importe qui. Nos ancêtres ont été les défenseurs de cela. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons transgressé toutes les lois constitutionnelles qui peuvent être transgressées. Et bientôt, la Fédération des Églises, dont toutes les églises et dénominations sont invitées à faire partie, alors que le diable s'est introduit et a produit la mondanité et tout, chez les membres des églises locales, et ainsi de suite, comme ça, avec de grandes assemblées, et la classe, et la haute société, tandis que la brave petite église, elle, est encore là-bas, en train de naître de nouveau, au milieu d'un beau gâchis. Comme c'est le cas lors de toute naissance, elle paye encore le prix, elle s'abaisse, elle meurt encore à elle-même. Elle agit encore comme les premiers qui sont nés le jour de la Pentecôte. C'est le même genre d'église là-bas. Elles seront fermées et bouclées sur ordre de la Fédération des Églises. Il y aura un boycottage, un genre de syndicat ou quelque chose comme ça. Ou bien vous y entrerez, ou bien vous sortirez. La marque de la bête est appliquée aujourd'hui. Et le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le rejeté, c'est la marque de la bête. Toute personne qui voit que le Saint-Esprit, on doit le recevoir, et qui ne le reçoit pas, prend automatiquement la marque de la bête. Parce qu'il n'existe que deux catégories de gens. Tous ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu avaient la marque de la bête. Donc, recevoir le sceau de Dieu, c'est recevoir le Saint-Esprit. Le rejeté, c'est avoir la marque de la bête. Tout est là. C'est tout à fait ça. Donc, l'épouse est montée. Le reste a été laissé ici. Et c'est celle-ci qui revient à la seconde résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. C'est vrai. La seconde résurrection, là, ce sera le jugement du trône blanc. Alors que l'Église, ne savez-vous pas, a dit Paul, vous qui allez parmi les infidèles et les hommes de loi et tout le reste, alors que les saints jugeront la terre. Les différents devraient être jugés devant l'Église, pas devant des magistrats injustes et tout ça. Mais c'est devant l'Église que nos différents devraient être jugés. Comment osez-vous vous traîner mutuellement devant les tribunaux? Que Dieu ait pitié d'un homme qui traîne un chrétien devant les tribunaux. C'est vrai, Paul leur a même déclaré qu'il ne devait pas oser faire une telle chose. Donc, voilà l'épouse, et voilà la Vierge endormie qui était laissée sur la terre. La Vierge sage s'en va au ciel. Elle a de l'huile dans sa lampe. Je sais que nous pourrions passer beaucoup de temps là-dessus, mais je vais me dépêcher pour terminer ceci. Est-ce que les chrétiens pêchent? Non, absolument pas. Il n'y a aucun passage de l'Écriture qui dise que le chrétien pêche. il ne peut pas pécher. Je sais que ça contrarie quelqu'un. Eh bien, allons donc dans 1 Jean 3 et voyons ce que dit l'Écriture. Le chrétien ne pèche pas. Avez-vous déjà vu un oiseau blanc qui est noir ou un oiseau noir qui est blond? Avez-vous déjà vu un homme sobre qui est ivre? Non. Et vous n'avez jamais vu un saint qui est pécheur. Ça n'existe pas. Maintenant, si ceci heurte un peu les susceptibilités, appliquez beaucoup de baume, vous savez. Et là, dans quelques instants, ce sera guéri. Bon, les Écritures sont pour nous la preuve absolue et infaillible de ce que nous avançons. 1 Jean, chapitre 3, et le verset 9. Très bien, écoutez ceci.
He that committeth sin is of the devil.
Celui qui pêche est du diable, car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Écoutez, êtes-vous prêts? Vous avez mis votre veste, l'armure est bien attachée? Écoutez bien, parce que ceci va donner un choc. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Comment ça? Parce que la semence de Dieu, sa semence à lui, Dieu, demeure en lui, l'homme, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que qui n'aime pas son frère. Comment pouvez-vous avoir des dénominations et dresser des barrières et tout ça, tout en disant que vous êtes né de Dieu? Ils n'en disent rien. C'est une contrefaçon qui vient de Satan, c'est vrai. Mais un homme qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Il lui est impossible de pécher. Regardez bien. Je vais juste prendre ce crucifix un instant, si on peut le décrocher de là. Qui a été la victime expiatoire? Jésus-Christ. Comment entrons-nous en Christ? Qui est mort pour nous? Christ. Pourquoi est-il mort? Pour nos péchés. Il a pris sur lui mon châtiment, pas vrai? Alors, comment est-ce que j'entre en lui? Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et quand nous sommes dans ce corps, nous sommes couverts par le sang et nous sommes affranchis des jugements. Il ne peut pas pécher, parce qu'il y a un sacrifice de sang qui est là, pour lui, jour et nuit. Alléluia! Il ne peut pas pécher. Il n'a aucun désir de pécher. S'il le fait, s'il fait quelque chose de mal, il ne le fait pas exprès. La Bible dit dans Hébreux au chapitre 10, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, et il est la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera, pourtant digne, celui qui aura foulé aux pieds le sang de Jésus-Christ, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé les œuvres de la grâce? Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous sommes affranchis du péché et nous ne pouvons pas pécher. Il y a une expiation qui nous attend. Et s'il y a toujours un désir de pécher dans votre cœur, c'est que vous n'avez jamais été baptisé dans ce corps, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, scellée par le Saint-Esprit. Les chrétiens ne pêchent pas. Ils font des erreurs, mais ils ne pêchent pas. Amen. Voilà la raison pour laquelle il ne pêche pas. Car il ne peut pas pécher. Comment puis-je avoir, si je traverse la ville ici et que le maire de la ville dit, « Monsieur Branham, je sais que vous faites des visites aux malades. Il y a des limitations de vitesse. La limitation supérieure de vitesse en ville est d'environ 50 km/h. Mais je vous autorise à rouler à 145 km si vous voulez. » Parce que j'ai confiance en vous que vous ne le ferez pas à moins d'avoir reçu un appel urgent ou que quelqu'un soit en train de mourir quelque part dans un accident. Et comme maire de la ville, je vous autorise à griller tous les feux rouges, à faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez y aller. Comment est-ce qu'un simple petit policier oserait m'arrêter pour avoir roulé à 65 km à l'heure dans un secteur où la vitesse est limitée à 50 km à l'heure? Il n'oserait pas. Je ne peux pas enfreindre de loi sur les limitations de vitesse dans cette ville parce que quoi? Parce que je suis au-dessus de ces lois. Amen. J'espère que vous le voyez. Et une fois que nous sommes morts et que Dieu a reconnu notre repentance, qu'il a reconnu notre baptême, qu'il a reconnu le sang de son propre Fils, qui était appliqué par la foi, qu'il reconnaît sa prédestination. Il savait que j'allais le faire. Il a reconnu qu'en Christ, je suis mort. Christ est mort à ma place. Quand il était immolé avant la fondation du monde, mon nom était mis dans son livre comme chrétien. Alléluia! Christ a subi ma mort. Christ est mon sacrifice. Dieu ne peut plus m'imputer aucun péché. Il m'a donné le sceau du Saint-Esprit comme témoignage que je suis passé de la mort à la vie. Avec ça, c'est réglé. Alors ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas le péché, car il ne peut pas pécher. Dans l'Ancien Testament, le souvenir du péché était renouvelé chaque année. Mais Christ, par un seul sacrifice, il a amené à la perfection pour toujours celui qui rend ce culte. Celui qui rend ce culte étant une fois purifié, Hébreux 10, celui qui rend ce culte étant une fois purifié, n'a plus aucune conscience de son péché. Alors prenez ces gens qui courent dans l'église, et ils sautillent, poussent des cris et parlent en langue. Ils agissent exactement comme des chrétiens. Puis, ils s'en retournent. Et l'année d'après, tout est à recommencer. La semaine d'après, ils n'ont jamais rien eu au départ. Ils ne font qu'imiter, car la Bible dit que le Saint-Esprit nous scelle en Christ jusqu'au jour de notre rédemption. Alléluia! C'est ce qui fait que je repose avec assurance. C'est parce que Dieu l'a promis. Plus de péché. La question du péché est réglée. Voilà pourquoi le chrétien trouve le péché si répugnant. C'est pour ça que le chrétien trouve les femmes qui portent des shorts si répugnantes. C'est pour ça que la vulgarité, c'est pour ça que les choses répugnantes, c'est pour ça que fumer, boire, jouer à des jeux d'argent, toutes ces émissions de télévision non censurées, toutes ces choses, pour vous, ce sont des saletés. Pourquoi? Vous êtes d'un autre royaume. Vous êtes né dans le royaume de Dieu et avez été scellé par le Saint-Esprit jusqu'au jour de votre rédemption. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, car il ne peut pas pécher. La semence de Dieu est en lui et il ne peut pas pécher. Tant que le Saint-Esprit est à l'intérieur, il enlève de vous tout désir du péché. Amen. Vous ne pouvez pas pécher. Il n'y a plus de désir. Nous pourrions nous étendre longuement là-dessus, mais dépêchons-nous. J'ai bien peur que nous n'arrivions pas à les prendre toutes. Pourquoi les églises qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et qui laissent prêcher des femmes prédicateurs, pourquoi ont-elles tant de puissance et d'autorité? Bon, ça, c'est délicat. Maintenant, je sais que je parle à des gens qui ne seront pas d'accord sur ce que je vais dire ici. Mais en tant que chrétien, je me dois de le dire. Il n'y a dans la Bible aucune écriture qui justifie le baptême d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jamais une seule personne dans la Bible n'a été baptisée au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est une tradition catholique dont l'enseignement remonte au VIe siècle. L'aspersion, ça n'a jamais été dans la Bible. Que les gens doivent être aspergés ou arrosés, mais par contre immergés. Oui, si vous voulez prendre connaissance de cela, ici j'ai les deux, le grec et l'hébreu là-dessus. Le jour de la Pentecôte, Pierre a exigé que les hommes se repentent et soient baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de leurs péchés. Et Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Père, Fils et Saint-Esprit. Matthieu 28, 19 dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom, pas dans les noms, mais dans le nom, au singulier, du, pas au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Saint-Esprit n'est pas un nom. Ce sont des titres qui se rapportent à un nom. Donc, 10 jours plus tard, Pierre a dit, « Repentez-vous, chacun d'entre vous, et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, Fils et Saint-Esprit. » Vous voyez, le concept trinitaire poussé à l'extrême. Vous voyez, ils essaient de faire de cela trois dieux. Il n'y a pas trois dieux. J'aimerais vous le lire dans le texte grec original, ici. La seule manière dont ils étaient baptisés au nom de Jésus, c'était, la Bible dit dans le texte grec original, c'était pour les amener à reconnaître qu'il était Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit sont des fonctions d'un seul Dieu. Il était le Père, il était le Fils, il est le Saint-Esprit. Ce sont trois fonctions ou trois dispensations, la paternité, la filiation et la dispensation du Saint-Esprit. Mais Père, Fils et Saint-Esprit, il y a un nom qui correspond à cela, le Seigneur Jésus-Christ. À partir de ce jour-là, toutes les personnes ont été baptisées au nom de Jésus-Christ. Et on en a trouvé quelques-unes qui n'avaient été baptisées dans aucun nom. Et dans le texte grec original, ici, il est dit, et dans le texte hébreu aussi, les deux, que le baptême au nom de Jésus, c'est pour le pardon des péchés. Les deux, en grec et en hébreu. Remettre veut dire pardonner, bien sûr. Si je remets quelque chose, ça signifie que je l'ôte. Le remettre, l'ôter. Mais il n'y a aucun passage dans la Bible. Et l'apôtre Paul, en passant par là, il a trouvé quelques frères baptistes. Acte 19. Ils passaient des moments merveilleux. Ils poussaient des cris. Ils avaient une grande joie, de grandes choses. Ils prêchaient. Il y avait de la joie dans le camp. Aquila et Priscille, au chapitre 18, avaient rendu visite à ces gens, à Apollos. Ceux-ci étaient baptistes. Et Paul est allé les voir. Il a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ?» Et ils ont dit, « Nous n'avons pas su qu'il y avait un Saint-Esprit. » Il a dit, « Comment avez-vous été baptisés ?» Je sais que dans la version du roi Jacques, il est dit, « De quel baptême ?» Dans le texte original, il était dit, « De quelle manière ?» De quel baptême ou de quelle manière avez-vous été baptisés ? Ils ont dit, « Nous avons été baptisés par l'homme même qui a baptisé Jésus. » Jean, Paul a dit, « Ça ne va plus, ça. Il faut vous faire rebaptiser. » Sur ces paroles, ils sont entrés de nouveau dans l'eau. Ils se sont fait rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Paul leur a imposé les mains et le Saint-Esprit est venu sur eux. Or, si ça, si Père, Fils et Saint-Esprit indiquent par ici et que le Seigneur Jésus-Christ indique par ici, je ne pourrai pas toucher les deux cibles. Il faut que ce soit juste. Or, Matthieu 28, 19, c'est le dernier chapitre et le dernier verset de Matthieu. Si vous lisiez une histoire d'amour et que ça dise, Jean et Marie vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Qui sont Jean et Marie? Reprenez le livre au début pour voir qui ils sont. Voyez qui sont Jean et Marie qui vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Si Jésus a dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et que Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, et Saint-Esprit n'est pas un nom, alors de quoi parlait-il? Qui est le Père, Fils et Saint-Esprit? Reprenez ça au début et lisez. Ce que je vais citer se trouve après les généalogies de Jésus-Christ, au chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Maintenant, observez très attentivement. Ce poteau, nous allons l'appeler Père. Cette chair, Fils. Ceci, le Saint-Esprit. Alors, qui est le Père de Jésus-Christ? Dieu. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Dieu est le Père de Jésus-Christ. Ça, c'est Dieu le Père. Ceci, c'est Dieu le Fils. Ça, c'est Dieu le Saint-Esprit. Voici de quelle manière la naissance de Jésus-Christ. Matthieu 1, 18. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, avant qu'ils eussent habité ensemble, se trouva enceinte par la vertu du... Je croyais que Dieu était son Père. Je croyais qu'il avait dit que Dieu était son Père. Alors, comment Dieu et le Saint-Esprit peuvent-ils être tous les deux son Père? S'ils sont deux individus différents, deux personnes différentes, personnalités différentes, ou quelle qu'en soit votre définition, il faut qu'ils soient une seule et même personne. Sinon, il aurait eu deux pères spirituels. De quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ? Marie, sa mère, fiancée à Joseph, avant qu'elles eussent habité ensemble, se trouva enceinte par la vertu, non pas de Dieu le Père, mais du Saint-Esprit. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge concevra et enfantera. Voyez, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et on lui a donné quel nom? Jésus. Très bien. Père, Fils, Saint-Esprit. Alors le Père et le Saint-Esprit, c'est un seul et même esprit. Cet esprit, qu'est-ce que c'est? C'est l'Esprit de Dieu. Et c'est au moment du baptême de Jésus qu'il est venu et a fait sa demeure en lui. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je prends plaisir à demeurer. Il est descendu et a habité en Jésus, ce qui a fait de lui Emmanuel sur terre. Alors, quel était le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Certainement. Donc Pierre a eu la même révélation. Maintenant, nos viseurs sont bien ajustés. Nous touchons la cible en plein centre. Voyons si les disciples tiraient de cette manière-là. Chaque fois qu'ils se réunissaient, chaque fois qu'il était question de baptême, il fallait qu'ils soient baptisés au nom de Jésus-Christ. Car il a dit, « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel vous deviez être sauvés. » C'est une idée fausse qui vient du diable. Il n'y a absolument aucune référence biblique pour ça. C'est vrai. Et maintenant, j'espère que ça n'a pas fait mal. Mais c'est la vérité. Voyez, c'est la vérité, frère. Vous ne pouvez pas arriver à... Vous ne pouvez pas toucher Père, Fils, Saint-Esprit à un endroit et Jésus à un autre, alors que personne n'a jamais été baptisé au nom de Père, Fils, Saint-Esprit. Dans la Bible, toutes les personnes ont été baptisées au nom de Jésus, et ceux qui n'avaient pas été baptisés comme ça devaient venir se faire rebaptiser, avant qu'ils puissent même recevoir le Saint-Esprit. Vous avez beau faire comme si vous aviez beaucoup de puissance. Vous devez vous conformer au plan infini de Dieu. C'est tout à fait exact. Très bien. Père, Fils et Saint-Esprit, c'est faux. Maintenant, pour ce qui est des femmes prédicateurs, ça, tout le monde sait que c'est faux. Si vous ne savez même pas ça, je souhaiterais avoir le temps de lire ça à partir du grec ici. Ce qui est dit, ça dit, si les femmes veulent savoir quelque chose, qu'elles demandent à leur mari, parce qu'il est honteux et malséant à une femme même de parler dans l'église. C'est ce que dit le texte grec, je veux dire le texte hébreu. Selon que le dit aussi la loi, qu'elle se taise et soit dans une entière soumission au pasteur. Voyez, car il est condamnable et malséant qu'une femme parle dans l'église. Oh, tout le monde devrait savoir ça. Et maintenant, en effet, c'est d'un bout à l'autre des Écritures. Et dans Timothée et différents passages que j'ai inscrits ici, c'est la vérité. Bien. Donc, pourquoi ont-elles la puissance? Vous dites, pourquoi est-ce comme ça? Regardez, frère, permettez-moi de vous demander quelque chose. Ou, sœur, quelle que soit la personne qui pose cette question, regardez, j'ai vu parmi les mahométans certaines des réunions les plus puissantes. Ils crient, ils sautent, ils se transpercent le cœur avec un couteau, comme ceci. Ils font couler de l'eau à travers, et ça ressort dans le dos. Ils marchent sur le feu, pieds nus, et toutes sortes de choses comme ça. Ils se couchent sur des planches à clous, et ils prennent une épée, se l'enfoncent dans la bouche, et la font descendre jusqu'en bas comme ça. On peut la saisir et la retirer. Il y a du sang dessus, et tout. Ne parlez pas de ces choses-là. Voyez, la vérité, ce n'est pas ça. Ces choses ne confirment rien. Voyez, Jésus a dit, je vais vous lire les Écritures que j'ai notées ici. Matthieu 7, 21 à 23. Plusieurs viendront à moi en ce jour-là. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, ceux-là entreront. Car plusieurs viendront à moi en ce jour-là et diront, Seigneur, n'ai-je pas prêché en ton nom? N'ai-je pas chassé les démons et prophétisé et fait toutes ces autres choses? Il dira, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai même pas connu. Voyez? Alors ne... Vous voyez, la vérité ne peut venir que par un seul moyen, frère. Bon, je ne dis pas que ceux qui baptisent des gens au nom de Jésus-Christ vont tous aller en enfer. Je ne dis pas ça. Le juge, c'est Dieu. Qu'il fasse ce qu'il désire. Mais il n'y a aucun passage dans la Bible pour légitimer le fait que qui que ce soit se fasse baptiser au nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Paul a ordonné à tous ceux qui avaient été baptisés autrement qu'au nom de Jésus de venir se faire rebaptiser au nom de Jésus. Et il a dit, si un ange du ciel venait annoncer n'importe quelle autre doctrine, Galates 1:8, qu'il soit anathème. Et Paul a dit, je l'ai dit précédemment et je le répète, si un ange du ciel vous annonçait quelque chose d'autre, qu'il soit anathème. Or, ça ne peut pas, on ne peut pas toucher à la fois une cible ici et une cible là. Pour Père, Fils et Saint-Esprit, dire, laissez-les faire, ça ira. Et pour le nom de Jésus, laissez faire, dire, ça ira. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui touche la cible en plein centre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Suivez ça d'un bout à l'autre de la Bible, partout où vous voudrez, et vous constaterez que ce baptême est faux. Puis reprenez l'histoire. Et là, au VIe siècle, quand le célèbre Actobus, je crois que c'est lui qui baptisait, ou l'un des... Je ne peux pas affirmer que c'était Actobus. J'ai oublié le nom de celui qui baptisait. Si vous voulez retrouver ça, c'est dans les pères avant Nicée, avant la rencontre de l'an 325 de notre ère. Ils baptisaient toujours au nom du Seigneur Jésus. Et quand l'Église catholique est parvenue au pouvoir, elle a adopté le nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Pas une seule fois auparavant, quelqu'un n'avait été baptisé au nom de Père, Fils, Saint-Esprit. C'est une tradition catholique. En sortant de là, Luther a apporté beaucoup de ces choses avec lui. Wesley a apporté le reste, et on s'y réfère toujours, dans le catéchisme catholique, appelé « la foi de nos pères », je crois, à la page 144, je pense. Il a dit, ils ont dit, « y aura-t-il des protestants qui seront sauvés ?» Ils ont dit, « certains d'entre eux, peut-être, ils prétendent aligner leur vie sur la Bible, mais ils acceptent quand même l'enseignement catholique. » Ils ont dit, « la Bible, les premiers catholiques, baptisaient au nom du Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous, nous avons ôté la solennité de là, et nous la plaçons sur Père, Fils, Saint-Esprit. » Et les protestants reconnaissent la validité de cela. Ils ont dit, « peut-être que certains d'entre eux seront sauvés. » Pas à cause de ça, en tout cas. Bien. Y a-t-il plus qu'un monde ? Oui. Il y a une multitude de mondes. Hébreux chapitre 1, verset 2. Hébreux chapitre 11, verset 3. Il y a une multitude de mondes. Dieu a créé les mondes. M-O-N-D-E-S. Monde. Y a-t-il plus qu'un ciel? Oui. Dans 2 Corinthiens 12, 3, Paul dit qu'il a connu un homme qui était ravi jusqu'au troisième ciel. Et dans l'Apocalypse et tout, il y en a plus encore. Il va falloir que je me dépêche, parce qu'on a déjà dépassé l'heure où j'aurais dû terminer. Est-ce que ça vous irait si je ne faisais que lire les autres? Et, très bien, faire quelques commentaires? Est-ce que le bébé en Christ montera dans l'enlèvement? Absolument. Si c'est un bébé, c'est qu'il est né de nouveau. Peu importe combien il est jeune, il montera de toute manière. Vous voyez? Comment se fait-il que Christ me soit apparu au moment où j'allais prendre les sacrements? Eh bien, sans doute que votre cœur était au diapason et que vous vous approchiez de Dieu avec consécration pour les prendre. Et c'est pour ça qu'il vous est apparu. Vous voyez, je ne connais pas d'autres raisons. Je ne pourrais pas en dire plus que ce qui... Voyons un peu. Si nous avons été sauvés avant la fondation... Oh, on ne veut pas s'arrêter ici, n'est-ce pas? Si nous avons été sauvés avant la fondation du monde, l'avons-nous été? Oui, monsieur. Apocalypse 13, 8 dit que vous avez été sauvés et que votre nom a été mis dans le livre de vie de l'agneau avant même que le monde ait été créé. Éphésiens 1, 4 et 5, je vais lire ça, ça ne prendra qu'une minute. C'est juste pour que vous voyez que je ne le cite pas seulement de mémoire. Très bien, voilà, lisons-le. Béni soit Dieu le Père, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, écoutez, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, puisque Christ est mort pour nous, bien sûr. Nous ayant prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon son bon vouloir. Maintenant, dans le livre de l'Apocalypse, j'ai ça ici. Je vais le prendre rapidement pour que vous voyez que je ne me suis pas contenté d'enrober. Je veux citer Apocalypse 13, 8. Écoutez ceci rapidement, là. Et tous les habitants de la terre, dont le nom... de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, immolés avant la fondation du monde. Voilà à quel moment c'est arrivé. Bien. À ce moment-là, étions-nous des esprits? Non. À ce moment-là, nous n'étions rien du tout, mais nous existions dans la pensée de Dieu. Alors, il a prononcé cela et la chose s'est matérialisée. Jésus a été immolé avant... Combien savent que la Bible enseigne que Jésus-Christ était l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde? Pourquoi? C'est que Dieu a prononcé cela. Et une fois qu'il a prononcé cela, c'est comme si tout était accompli. Déjà. Et quand il m'a vu, quand il vous a vu, avant la fondation du monde, nous existions seulement sous une forme abstraite, dans sa pensée. Ensuite, quand nous sommes venus dans ce monde, nous étions à la fois homme et femme, mâle et femelle. Il a détaché de l'homme l'esprit féminin et il en a fait une femme. Il a laissé l'esprit masculin dans l'homme. Quand vous voyez une femme qui se comporte comme un homme, il y a quelque chose qui cloche. Quand vous voyez un homme qui se comporte d'une manière efféminée comme une femme, il y a quelque chose qui cloche. Et ensuite, il a pris une côte de l'homme et lui a fait une compagne qui venait de lui. Et les deux sont un. Mais avant la fondation du monde, nos noms, au moment où l'agneau a été immolé, nos noms ont été mis dans le livre. Quand Dieu, dans sa pensée, nous a vus d'avance et nous a prédestinés par sa prescience avant la fondation du monde. Oh frère, il y a là de quoi faire bondir l'Église sur ses pieds et se mettre à courir dans les allées, n'est-ce pas? Imaginez un peu, vous qui êtes nés de nouveau, avant la fondation du monde, Dieu a mis votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Christ est mort et a envoyé le Saint-Esprit ici pour vous appeler à la vie éternelle. Vous l'avez reçu, il vous a scellé. Vous êtes là jusqu'au jour de votre rédemption. Alléluia! Tenir bon, et comment? La question n'est pas de savoir si moi je tiens bon, mais si lui a tenu bon. Ce n'est pas ce que moi j'ai fait, c'est ce que lui a fait. Ce n'est pas que j'ai arrêté de fumer, que j'ai arrêté de mentir, que j'ai arrêté de voler. C'est qu'il est mort pour moi et il a ôté de moi l'esprit que j'avais et m'a transformé en une nouvelle créature. Maintenant, la question suivante, qui est juste en dessous, c'est, on va faire vite là, pour pouvoir y répondre. Quelle différence y a-t-il entre le corps, l'âme et l'esprit? Le corps est la chair que vous regardez et qui devra pourrir. Il est né par suite d'un désir sexuel du père et de la mère. Il devra pourrir, il ne vaut rien. Et donc, par la nouvelle naissance, à la résurrection, quand vous serez ramené ici dans un nouveau corps, ce sera la puissance créatrice de Dieu qui parlera, comme il l'a fait pour Adam, et vous sortirez. Job a dit, « J'aurai un désir, il parlera et je lui répondrai. » Voyez, alors le corps est ce que vous regardez. L'esprit est ce qui vous contrôle et votre âme est ce qui motive cet esprit ou la nature de cet esprit. L'âme qui pêche, cette âme-là mourra. Vous naissez dans le monde avec une âme pécheresse, c'est-à-dire que la nature de votre esprit est une nature pécheresse. Vous désirez les choses du monde. Ensuite, le Saint-Esprit descend. Il vous baptise. Elle change la nature de votre esprit. Alors, la nature qui est sur vous est celle du ciel. Alors, vous professez être un pèlerin et un étranger. Alors, vous êtes né d'en haut. Vous êtes d'en haut. Vous êtes candidat au ciel. Vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ, avec le même corps, avec le même esprit, mais qui est maintenant changé. Et vous, ou la nature de votre esprit est changée, de l'injustice à la justice. Voilà. L'âme, le corps et l'esprit. Frère Branham, un homme peut-il faire les œuvres du Christ sans être le Christ? Non. Là, est-ce que vous, chère personne, vous voulez dire que... Je vais relire ça. Un homme peut-il faire les œuvres du Christ sans qu'il soit le Christ? C'est ça, sans qu'il soit le Christ. Bien sûr. Prenons l'évangile de Jean pour un instant. L'évangile de Jean au chapitre 14. Là, je veux que vous regardiez ceci, si vous pouvez le saisir tout de suite, pour que vous, je crois que c'est Jean 14, 12. Nous allons vite prendre ça. Regardez ce que Jésus a dit à ce sujet. Très bien. En vérité, je vous le dis, celui, qui qu'il soit, celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. N'importe quel homme, si l'homme lui-même ne peut pas être le Christ, mais les œuvres du Christ accompagneront tous les croyants. Voyez, il fera les œuvres du Christ dans n'importe quel homme. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Non pas « je les ferai », mais « il les fera ». Il les fera, pas « je ». Mais il croit en moi, il a confessé sa foi en moi, il est mort à lui-même, et mon esprit habite en lui. Alors il devient une partie de moi. Or, cela ne fait pas de lui le Christ, cela fait de lui une partie du Christ, avec le reste de l'Église. Très bien, il n'est pas le Christ, parce que ça, ce serait antichrist. Vous voyez, il retrancherait quelque chose au Christ. Par contre, il peut faire les œuvres du Christ, tout croyant le peut. Très bien. Nous savons que l'Esprit Saint béni n'est pas sujet à multiplier de vaines paroles en dispensant les Saintes Écritures. Alors, s'il vous plaît, dites-moi pourquoi, à certains endroits, le terme « Esprit Saint » est employé et à d'autres endroits, le terme « Saint-Esprit » est employé. Je sais qu'il y a une raison valable pour, raison valable à cela. Alors, j'aimerais savoir pourquoi. C'est exactement le même terme. Esprit Saint et Saint-Esprit, c'est exactement pareil. Saint-Esprit ou Esprit Saint, l'un ou l'autre, peu importe, c'est pareil. Exactement pareil. Très bien. Là, on est presque à la fin de la pile. Cette colonne de feu qui est avec vous, qu'est-ce que c'est? Voilà une bonne question. Christ, le Saint-Esprit, elle n'est pas seulement avec moi, elle est avec vous. Elle est simplement apparue là-bas. La Bible enseigne que les enfants d'Israël ont été conduits hors d'Égypte. À ce moment-là, qu'est-il arrivé? Une colonne de feu les a accompagnés. Ce n'est pas les enfants d'Israël qui ont accompli le miracle, mais la colonne de feu qui les accompagnait. Pas vrai? Combien savent que c'était là l'ange de l'Alliance, le Logos? Mais bien sûr, nous savons bien que c'était l'ange de l'Alliance. Très bien, c'était Christ. Moïse a regardé les richesses de Christ comme des trésors plus grands que ceux que les richesses de l'Égypte. Pas vrai? Très bien. Donc, c'était Christ, le Logos, l'étoile du matin, l'alpha, l'oméga. Il est venu sur la terre. Il a été vu à maintes reprises. Et dans ce que nous appellerions, je pense, une théophanie. Ça, c'était au début du Testament, lorsqu'on l'a vu sous forme d'un homme. Mais il a été fait chair et habité parmi nous. Et la plénitude de Dieu a habité en lui. Très bien. Alors, il a dit, « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, pas vrai? Jusqu'à la fin du monde. Je suis venu de... quoi? Dieu. Je m'en vais à Dieu, pas vrai? Il est donc venu de... quoi? La colonne de feu, pas vrai? Ensuite, il est retourné à... quoi? La colonne de feu. Lorsque Paul était en route vers Damas, cette colonne de feu l'a rencontré et l'a rendu aveugle, pas vrai? Alors il a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il a dit, « Seigneur, si vous remarquez, avec le S majuscule, cela signifie Elohim, Seigneur, qui es-tu? » Il a dit, « Je suis Jésus, la colonne de feu. » Et il est ici, en ces derniers jours, juste avant son apparition visible. Il a envoyé son esprit, dont la présence est si prédominante et si réelle qu'on l'a pris en photo. Voici, il entre dans l'église et il peut faire cela maintenant même. Avec l'aide du Saint-Esprit, il n'y a aucun secret dans votre cœur qui ne puisse pas révéler. La Bible dit, dans Hébreux au chapitre 4, que la parole de Dieu, Jésus est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Pas vrai? Et la parole est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, de plus vivante et plus efficace qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'os, la moelle des os, et elle discerne les pensées du cœur. Voilà, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, c'est lui, la colonne de feu qui accompagne, c'est lui, c'est le Saint-Esprit, le Seigneur du ciel, le Logos, le Christ Jésus, l'alpha, l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient, la racine et la postérité de David, l'étoile du matin, le « Je suis », le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Conseiller, le Prince de la Paix, le Dieu puissant, le Père éternel, le Merveilleux, c'est lui. On ne peut pas trouver assez de titres pour lui exprimer son nom. Là, je vais me dépêcher. Voici cette grande question. Frère Branham, pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer votre théorie selon laquelle Ève aurait conçu Caïn du diable? Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'Ève a conçu Caïn du serpent. Dans Genèse 4:1, le verset 1 déclare clairement qu'Adam connut sa femme Ève. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par Dieu. Absolument. Toute vie doit venir de Dieu. John Dillinger est venu de Dieu. Adolf Hitler est venu de Dieu. Toute. George Whitfield est venu de Dieu. Et Bob Ingersoll aussi. Toute personne vient de Dieu. Mais ce que j'ai dit, c'est ceci. Et que quelqu'un essaie seulement de démolir ça. Vous voyez, la Bible dit qu'il mettrait dans Genèse 3:8. Quand la question a été posée, après qu'Ève avait été, que quelque chose lui était arrivé, qu'elle avait rencontré le serpent. Or, le serpent n'était pas un reptile. Il était un animal, le plus rusé de tout ce qui se mouvait dans les champs. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, la science cherche l'os d'un animal qui pourrait faire le lien entre l'homme et le singe. Ce qu'on a trouvé de plus proche, c'est le chimpanzé. On n'arrive pas à trouver d'os. On n'y arrivera jamais, parce que c'est le serpent. C'est une révélation de Dieu. Observez, le serpent était un semblable à un homme préhistorique, quelque chose de proche de Dieu ou de proche de l'homme. Ça ne pouvait être que ça. Tout autre animal qui aurait été impliqué, que Satan aurait utilisé, sa semence ne se serait pas croisée avec celle de la femme. On ne peut pas croiser une semence humaine avec aucune semence animale. Ça ne marchera pas. Mais cet animal, dont la semence permet ce croisement, est complète, il a disparu. Dieu l'a transformé en reptile. Mais souvenez-vous quand il a dit, « Pourquoi t'es-tu caché? Pourquoi t'es-tu couvert de ces feuilles de figuier ?» Alors, ils ont commencé à se renvoyer la balle, comme à l'armée. Eh bien, Adam a dit, « La femme que tu m'as donnée m'a poussé à prendre du fruit. » Et la femme a dit, « Le serpent m'a séduite. » Alors, séduire, qu'est-ce que ça veut dire? Elle, « Il m'a séduite. » Et Dieu a dit, « Je mettrai inimitié entre ta semence et la semence du serpent. » La semence. Le serpent a eu une vraie semence. Elle est venue par Caïn. Par Caïn sont venus tous les gens intelligents et instruits qu'il y a eu jusqu'au déluge, de l'époque antédiluvienne. Et celui qui est venu après lui, c'est Abel, qui a été tué. Et Seth a été suscité à sa place, afin de représenter la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. C'est de lui que sont venus les gens humbles, les bergers et ainsi de suite. Mais les gens qui craignent Dieu, et Jésus a dit que les enfants de ce monde sont plus sages, plus intelligents que les enfants du royaume. C'est vrai. Nous ne pouvons pas nous comparer à eux. Ne cherchez pas à devenir comme eux. Humiliez-vous devant Dieu. N'aspirez pas à être intelligent et sage. N'aspirez qu'à connaître Jésus. Et laissez ces choses, car c'est là que se trouve aujourd'hui la semence du serpent. Et les gens se font une gloire de ce que des hommes de science, des hommes intelligents, instruits et de grands érudits soient membres de leurs églises. Je préférerais avoir comme membre de mon église un homme qui connaît vraiment Dieu, même s'il ne connaît pas son alphabet. C'est vrai, pourvu qu'il soit de la semence de Christ. La semence de la femme, c'était Christ. Marie a donné naissance au Christ. Et la semence du serpent, qui était Caïn, s'est transmise jusqu'à Judas Iscariote. Là se trouvaient Jésus et Judas, incarnés, juste là. Dieu et le diable. Sur la croix, au calvaire, il y avait quatre personnes en train de mourir. Il y avait un brigand de chaque côté de Jésus. Et Judas s'est pendu à un sycomore, qui est une croix. Maudit est quiconque est pendu au bois. L'un des brigands a dit, « Si tu es le Fils de Dieu, fais-nous descendre. » L'autre a dit, « Seigneur, pour nous, c'est justice. Nous recevons ce châtiment. Mais toi, tu n'as rien fait. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il y avait le Jésus, le prédicateur de l'Évangile, qui prêchait sur la croix. Il y avait Satan qui retournait en enfer, en menant avec lui la semence du serpent, l'incroyant. Il y avait Dieu qui retournait au ciel, en menant avec lui un pécheur repenti, la semence de la femme. Certainement, ce n'était pas la semence du diable, c'était la semence du serpent. Le serpent a eu une semence. La Bible dit qu'il a eu une semence. Elle existe encore aujourd'hui, la semence du serpent. Tellement... Bon, vous pourrez me poser une autre question là-dessus. Si nous avions le temps là, je peux vous donner tous les mots. Et pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer ce que signifie « ne pêche point » dans 1 Jean 5,18. Oh, nous y sommes justement, ici, je crois. Peut-être que... Je l'ai, je suis tombé pile dessus. Le Seigneur voulait peut-être que je lise ça. Très bien, 1 Jean, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Bien sûr que non, je viens d'en parler. Il ne peut pas pécher, il est né de Dieu, ne pêche point. Il ne peut pas pécher, la semence demeure en lui. Un autre passage auquel on pourrait se référer ici, c'est Romains 4, 8, 4, 5 à 8, où Dieu, David plutôt, en avait parlé bien des années plus tôt, en ces mots, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. Voyez, alors évidemment, il ne pêche pas. Bon, nous en avons encore une, et après, c'est tout. Matt, voyons un peu. Frère Bill, quelle différence y a-t-il entre la fornication et l'adultère? Matthieu 19, 9. Jésus a dit dans Matthieu 19, 9, « Quiconque répudiera sa femme et en épousera une autre, sauf pour cause de fornication, commet adultère. » La différence entre la fornication et l'adultère, le mot pourrait être employé indifféremment. Mais pour bien préciser le sens de ces propos, là, c'est qu'une femme qui n'est pas mariée ne peut pas commettre un adultère, parce qu'elle n'a pas de mari à l'égard duquel commettre un adultère. Dans son cas, c'est de l'impureté. S'il a fait ça, il faut qu'elle le confesse à son mari avant qu'il se marie. Sinon, si son mari le découvre plus tard, il a le droit de la répudier, parce qu'elle a fait un faux serment. En effet, la Bible dit, « Soyez assurés », ou plutôt, la formule rituelle dit, « Soyez assurés », c'est ce que j'ai dans la mienne, que pour tout couple uni autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, le mariage n'est pas valide. J'exigerai et vous sommerai tous deux, comme vous devrez certainement répondre au jour du jugement, alors que les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Si l'un de vous deux connaît un obstacle à ce que vous soyez unis par les saints liens du mariage, confessez-le maintenant. Voilà, c'est ça, voyez. Donc, la fornication, c'est quand une jeune fille vit dans l'impureté. Ça, c'est de la fornication, parce qu'elle n'a pas de mari. Mais une fois qu'elle est mariée, alors que elle vit comme ça, elle commet un adultère à l'égard de son mari. Il n'y a pas longtemps, une femme est venue et elle disait, « Oh, j'ai tout confessé. » Elle était agitée, elle avait fait une dépression. Elle disait, « J'ai tout confessé à Dieu. » J'ai dit, « Il faut que vous le confessiez à votre mari. Ce n'est pas à l'égard de Dieu que vous avez commis un adultère. C'est à l'égard de votre mari. » C'est vrai. Et si un homme épouse une femme qui a eu une vie impure avant qu'elle se marie avec lui, et que par la suite, elle vienne vers lui, même s'ils sont mariés depuis très longtemps, que par la suite, elle vienne vers lui et lui dise, « Chérie, je voudrais te dire quelque chose. En fait, j'ai fricoté avec un autre homme. Je ne te l'ai jamais dit. Jésus a dit qu'il a le droit de la répudier et d'en épouser une autre, parce que, dès le départ, ils ne sont pas mariés, puisqu'elle a, par fausseté, dit un mensonge contre lui. Maintenant, il y a autre chose ici. Merci. S'il vous plaît, expliquez 1 Jean 5, 16. 1 Jean 5, nous l'avons ici même. Si quelqu'un voit un frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Bien, nous allons prendre, revenons en arrière, et prenons ça rapidement. C'est la dernière. Prenons dans Marc, et ceci expliquera exactement quel est ce péché qui mène à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, et il ne faut même pas prier pour ce péché-là. Combien savent qu'il y a un péché qui mène à la mort? Il ne faut même pas prier pour ça. Prenez Marc, le chapitre 3 de Marc. Après avoir trouvé le chapitre 3 de Marc, alors nous lirons rapidement ce passage avant de terminer. Prenons donc 3, 22. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, « Il est possédé de Belzébul. » Ils l'avaient vu discerner les pensées des gens. Ils dirent, « Il est possédé de Belzébul. » C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan ?» Donc, si le diable peut guérir, comment le peut-il ? Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans l'avoir auparavant lié, cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Comment peut-il y entrer dans ses cœurs et découvrir ce qui, voyez, sans que cela vienne de Dieu? Je vous le dis en vérité, tout péché sera pardonné au Fils des hommes et le blasphème qu'ils auront proféré. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il sera sujet à une condamnation éternelle. C'est la séparation. Jésus parlait ainsi parce qu'il... Pourquoi a-t-il parlé ainsi? Parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Ils appelaient l'Esprit de Dieu qui accomplissait ses miracles en Christ. Ils disaient que c'était l'Esprit du diable qui faisait ça. Jésus a dit que ça, c'est le péché impardonnable. Et si vous voyez un homme, priez, il ne faut pas prier pour lui. S'il se moque du Saint-Esprit et parle contre le Saint-Esprit, il vous est interdit même de prier pour une telle personne. Vous comprenez? Car il y a un péché qui mène à la mort. Il y a un seul péché. Jésus a dit que tout péché serait pardonné aux fils des hommes. Mais blasphémer contre le Saint-Esprit, ça, ce ne serait pas pardonné. Alors les gens disent, « Eh bien, blasphémer contre le Saint-Esprit, blasphémer, qu'est-ce que c'est ? » Ça veut dire parler d'eux, tourner en ridicule, se moquer d'eux, blasphémer. Bien, en quoi ont-ils blasphémé contre lui ? En disant que le Saint-Esprit qui était en lui, qui le faisait agir et faire les choses qu'il faisait, ils ont dit, « Il est possédé de Belzébul, le diable. » C'est le diable, un diseur de bonne aventure en lui qui lui fait faire ces choses. Voir les secrets dans les cœurs des gens, dire à Philippe qu'il savait où il était avant de venir à la réunion, chasser les démons et faire ces choses-là. Il fait ça par Belzébul. Il est un démon. Et Jésus a dit que ce péché ne sera jamais pardonné. C'est donc le péché impardonnable, pour lequel il ne faut jamais prier. Il ne pourra jamais être pardonné. L'homme ou la femme qui fait ça s'est scellé éternellement hors de la présence de Dieu dans tous les siècles des siècles. Pas de pardon. L'aimez-vous? Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé. Le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Écoutez, vous avez été si gentils et ces questions étaient ardues. Elles ont demandé beaucoup de temps. Et là, vous êtes resté assis dans cette église, 19h30, 20h30, 21h30. Pendant 2h30, assis dans cette église surchauffée. Vous n'avez pas fait ça juste pour être assis là. Et je pense que 98 ou 99% de l'Assemblée n'a pas bougé de son siège pendant tout ce temps. Je tiens à dire ceci. Jeffersonville, j'ai le sentiment que, par son péché, elle a laissé passer son jour de grâce. Je le crois. Je crois que les États-Unis tout entiers l'ont laissé passer. Mais certains des amis les plus fidèles que j'ai dans ce monde se trouvent ici même, à Jeffersonville. Il y a ici des gens qui seraient prêts à me suivre au prix de leur vie. Et maintenant, par une soirée aussi chaude, vous, les nouveaux venus parmi nous, dites-moi, est-ce que des gens resteraient assis là juste pour le plaisir d'être assis là, à écouter quelqu'un parler, peut-être d'écriture, qu'ils ne croient même pas de la manière dont je les ai expliquées, mais ils ont assez de respect et de consécration pour rester assis à écouter. Puissiez-vous vivre longtemps, quand les étoiles seront réduites en poussière, puissiez-vous continuer à vivre en Jésus-Christ. Puisse Dieu subvenir à tous vos besoins. Puisse-t-il vous donner ce que votre cœur désire. Si vous croyez que je suis son serviteur et que vous croyez que mes prières pourraient vous aider, que le Dieu du ciel qui a ressuscité son Fils Jésus-Christ pour qu'il soit la victime expiatoire pour nos péchés, pour qu'il meure à notre place, puisse-t-il, lui qui est omnipotent, lui qui est omniprésent, qui est dans ce bâtiment en ce moment, puisse-t-il vous donner ce que votre cœur désire. C'est la prière sincère que j'adresse pour chacun de vous sans exception. Et dans un pays où le soleil ne dardera plus jamais ses rayons sur vous pour vous griller, où les vents brûlants ne souffleront jamais, j'espère pouvoir passer des années par millions assis avec chacun de vous dans le royaume de Dieu pour reparler des choses éternelles dont nous avons parlé pendant ces soirées et tout, alors que nous étions assis ensemble. Je le dis sincèrement, avec tout ce qui est en moi, de tout mon cœur. Je prie que Dieu vous donne cela à chacun. Puisse sa grâce être avec vous. Puisse-il vous guérir de votre maladie. Puisse-il vous donner le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, je dirais ceci, sans le prendre à la légère, sans, si j'ai offensé quelqu'un en quoi que ce soit, par mes propos au sujet de la semence du serpent, du baptême au nom de Jésus, alors que ces choses, bon, quelqu'un dira, « Frère Branham est unitaire. » Non, monsieur, je ne suis pas unitaire. Je ne crois pas que Jésus ait pu être son propre père. Je crois que Jésus a eu un père et que c'était Dieu. Mais Dieu a habité et fait sa demeure dans ce corps appelé Jésus. Et il était Emmanuel, Dieu avec nous. Et il n'y a pas d'autre Dieu que ce Dieu-ci. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père, le Seigneur, Fils, Jésus, Saint-Esprit, Logos, l'Esprit de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, c'est lui. Et en lui habitait la plénitude de la divinité corporellement. Et je crois vraiment, sans l'ombre d'un doute, car je vous aime, et même si vous restez baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, aspergé, arrosé, tout ce que vous voudrez, peu importe, je prie Dieu de toute mon âme et de tout mon corps, afin que vous et moi, nous nous rencontrions dans le royaume de Dieu, et que Dieu, si je suis dans l'erreur, ferme les yeux sur mes erreurs, et que, si c'est vous qui êtes dans l'erreur, il ferme les yeux sur vos erreurs. Mais donc, suite à mes propres convictions au sujet de l'Écriture, cherchons à toucher la cible de la Genèse à l'Apocalypse. Je vous ordonne de vous faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ si vous ne l'avez pas déjà fait. Et si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit et que votre vie ne reflète pas la douceur, vous aurez beau avoir parlé en langue, avoir poussé des cris, avoir sautillé, avoir imposé les mains aux malades et qu'ils aient été guéris, avoir opéré toutes sortes de miracles et de signes. Si vous n'avez pas en vous les fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la douceur, la bonté, la longanimité, la foi et toutes ces choses. Alors je vous ordonne et je vous adjure au nom de Jésus-Christ de prier sans cesse jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Peu importe que vous ayez parlé en langue, que vous ayez poussé des cris, que vous soyez membre de l'Église depuis longtemps, que vous ayez été assidu ici, tout ce que vous avez fait n'a rien à y voir. Tant que Christ, le Saint-Esprit, n'aura pas pris sa place dans votre cœur, que vous soyez mort aux choses du monde et que vous ayez une vie nouvelle en Christ. Que Dieu vous bénisse, c'est là ma prière. Levons-nous maintenant. Oh, quelle belle assemblée! Vous avez été si gentils. Ça me fait de la peine de vous garder debout comme ceci. C'est l'anniversaire de la petite Edith là-bas au fond. Edith, tu permets que je compte tes... Je vais demander à Frère Neville de les mettre là pour toi. Allez, viens. Nous allons voir quel âge a cette jeune fille. 38 ans. Que Dieu te bénisse. David, donne-nous la... Je veux dire, Teddy, donne-nous la note pour joyeux anniversaire. Très bien, s'il te plaît. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, sœur Edith! Joyeux anniversaire! Maintenant, toute cette assemblée, à l'unisson, ne jamais vieillir! Allez, tous en cœur maintenant! Ne jamais vieillir! Ne jamais vieillir. Au pays où nous ne vieillirons jamais. Ne jamais vieillir. Ne jamais vieillir. Au pays où nous ne vieillirons jamais. Dans le doux, nous nous rencontrerons sur ce beau rivage. Dans le doux, au-delà, nous nous rencontrerons sur ce beau rivage. Vous l'aimez? Oh, il est merveilleux, si bienveillant, si bon. On a une petite consécration de bébé?